Vous allez entendre un message de William Marion Branham, prêché le 29 décembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière ». Inclinons maintenant nos têtes. Notre Père céleste, nous te remercions ce matin de ta bonté et de ta miséricorde, du privilège que tu nous donnes de nous réunir ici à nouveau, un jour de ce côté-ci de la grande éternité, pour adorer celui qui est digne d'être aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions de ce qu'il soit venu sur la terre pour nous racheter d'une vie de péché et nous donner aussi ce grand héritage que nous possédons par sa justice. Ce matin, comme nous sommes ici en tant que ses ambassadeurs pour distribuer ce pain de vie à cette assemblée qui attend, puisse le Saint-Esprit inspirer chaque parole et placer cela dans nos cœurs selon nos besoins. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. J'estime que c'est encore un grand privilège d'être ici parmi vous ce matin. Nous regrettons qu'il n'y ait pas assez de place pour asseoir les gens. Notre tabernacle n'est pas assez grand. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu nous absenter de Tucson, où nous habitons, pour être ici durant ces vacances. Malgré le mauvais temps, nous nous réjouissions à la pensée d'être ici et d'avoir des réunions. Maintenant, je désire annoncer que ce soir, il y aura un service de guérison ou de prière pour les malades. Je viens de dire à Billy... Il m'a dit, « Eh bien, que feras-tu ? » Je lui ai répondu, « Eh bien, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu distribues des cartes vers 18h30, afin que les gens ne... » Vous savez, il y a tant de monde ici, que ce qui convient le mieux est de vous appeler un à un par le numéro de votre carte, afin d'éviter tout encombrement. Ainsi, nous les appellerons un à un et les ferons passer par la ligne de prière. Ainsi, vous... Si vous êtes malade ou si vous avez des bien-aimés qui le sont et que vous désirez les amener, venez vers 18h30 ou 19h et procurez-vous une carte de prière. Billy sera à la porte ou bien il les distribuera d'une autre manière. Ce sera probablement la dernière fois que je prêcherai ici avant d'y revenir pour quelque temps, car j'ai un horaire très chargé. Cependant, je serai aux États-Unis jusqu'à la fin du printemps. Donc, il se peut que nous revenions un peu plus tard cet été. J'aimerais que nous puissions obtenir l'endroit près d'ici, s'il y a l'air conditionné. J'allais en parler à Billy, car je désirerais, Dieu voulant, prêcher sur ces 7 trompettes. Nous voyons qu'après les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes. Si vous avez le temps, par exemple en juin, quand les gens sont en vacances, cela leur donnerait le temps de pouvoir venir. Je suis content de voir Frère Shepherd ici ce matin, retour de l'hôpital. Je suis allé le voir l'autre jour. Frère Shepherd, je ne vous ai pas appelé hier, je pense. Ce songe que vous m'avez envoyé était très, très bien. Vous voyez en effet Christ dans le ciel sur ce cheval blanc, mais qui était cependant retenu, n'est-ce pas? Mais avant que cela ne disparaisse, toute votre famille réussit à le voir. L'interprétation du songe est que votre famille a vu ce mouvement de Dieu des derniers jours avant qu'il ne disparaisse. Ainsi, c'était une grande bénédiction spirituelle pour vous et pour votre famille. Cette famille a surmonté une grande épreuve pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. D'autre part, nous avons une triste nouvelle ce matin. Parmi nos précieux amis et parmi ceux qui viennent au tabernacle, il y a la famille Coates que nous aimons tous. Ils viennent de l'Est ou des environs de Chicago, de même que Sœur Billy Habib et Sœur Armstrong aussi et les autres sœurs. Je pense qu'ils étaient autrefois nazaréens avant de venir au Seigneur. Ce sont de très précieux amis. Frère et Sœur Coates, le père et la mère, étaient en route pour la maison l'autre jour. Ils revenaient de l'Ouest et quelqu'un dérapa et tua Sœur Coates sur le coup. Et au moment même où on m'appela à Tucson pour m'apprendre la nouvelle, j'étais assis à table devant une boîte de bonbons qu'elle venait de me confectionner. Vous savez ce que cela me fit. Mais je pense que je remercie le Seigneur de ce qu'elle n'a pas eu à souffrir Elle se faisait vieille et elle n'eut pas à souffrir. Elle est partie à la maison pour être avec Dieu. Je parlais justement à ces deux filles tout à l'heure dans la pièce à côté. Frère Côte, qui est parmi nous ce matin, eut quelques côtes de fracturées. Je l'ai appelé à l'hôpital où il se trouvait dans le Missouri. Il avait les côtes fracturées, etc., mais il eut certainement beaucoup de courage. C'est un vrai chrétien. Il sait que sa petite reine n'est pas morte, mais qu'elle vit pour toujours avec Christ, voyez-vous, et il y aura un temps d'union. Job dit une fois, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. » Avez-vous déjà remarqué que Dieu fait la même chose dans la nature? Par exemple, la sève qui se trouve à la cime des arbres nourrit les feuilles, mais avant que l'hiver n'arrive, la colère qui est répandue sur la terre, vous voyez, il fut un temps où il n'y avait pas d'hiver sur la terre. Et dans le millénium, il n'y aura plus d'hiver, voyez-vous? Ainsi, c'est la colère qui est répandue sur la terre. Puis quand cela arriva, vous voyez, avant que la colère ne vienne, Dieu, dans sa miséricorde, fait descendre cette sève sous la terre dans les racines de l'arbre et la garde là jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée. Puis il la fait monter à nouveau au printemps. « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. » C'est ce qu'il a fait pour notre sœur, c'est ce qu'il fait pour chaque chrétien. Frère Côte, que Dieu vous bénisse. Je suis si heureux de savoir que le sceau de Dieu tient bon dans un temps d'épreuve. Je comprends l'épreuve par laquelle il passe en ce moment, car je suis passé par quelque chose de semblable il y a quelques années. Mais je suis l'un après l'autre où nous devons traverser cette grande rivière, et mon temps viendra un de ces jours, comme le vôtre aussi. Mais comme disait David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Maintenant, à la mémoire de Sœur Côte, notre précieuse sœur qui est partie vers Dieu, en souvenir d'elle ce matin, je désire que l'assemblée se tienne debout un instant. Inclinons nos têtes et pensons à celle qui, il y a quelques jours à peine, marchait dans ce tabernacle, se promenait parmi nous et nous serrait la main. Une aimable chrétienne. Elle est maintenant à cet endroit que le Seigneur m'a laissé voir il n'y a pas longtemps. Elle est redevenue une jeune femme, et elle attend la venue de sa famille. Notre Père Céleste, nous te remercions du souvenir de Sœur Côte. Quelle précieuse et chère sœur! Le temps viendra où nous arriverons au bout de la vie qui nous était destinée. Nous devrons alors traverser la rivière. Nous te remercions de ce qu'elle n'a pas eu à souffrir. Aucune souffrance ne devait la retenir ici, car en un instant, elle s'est retrouvée directement dans tes bras. Son mari et ses enfants sont ici ce matin, Seigneur, de retour à leur poste de devoir. Combien nous te remercions pour cette brave foi, la foi de nos pères qui vivent en paix au lieu de la prison, de la flamme et de l'épée. Nous te remercions de toutes ces choses. Fais reposer sa précieuse âme, Seigneur. C'était notre sœur. Des larmes de tristesse coulent dans notre cœur à cause de son absence. Mais de ces larmes, une joie s'élève et nous laisse savoir par l'assurance de ta parole qu'elle continue à vivre dans une vie mortelle qui ne peut jamais mourir. Il n'y aura jamais d'accident où elle se trouve en ce moment. Elle attend simplement ceux qui viendront se joindre à elle. Bénis frère Côte, bénis ses sœurs qui sont ses filles, et tous ses bien-aimés, tous ceux qui l'aiment. Et un jour, Père, nous espérons la rencontrer là-haut, dans ce grand au-delà, où il n'y a ni maladie, ni deuil, ni douleur. Jusqu'à ce temps-là, garde-nous frais et dispos, alors que nous te servons et que nous attendons avec impatience ce grand jour. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le glorieux Saint-Esprit qui agit parmi nous dans ce tabernacle en révélant sa parole, fasse reposer son âme en paix jusqu'à ce que nous la rencontrions. Ce matin, il fait chaud ici à cause de nos corps, vous savez, qui produisent tant de chaleur. Maintenant, nous aimerions signaler quelque chose. Parfois, nos services ici durent toute la matinée. La raison en est que ce n'est vraiment pas juste de tenir des réunions aussi longues qui durent 1 heure et demie, parfois 2 heures, Mais vous voyez, j'enregistre là derrière, et cette bande ira partout dans le monde. C'est pourquoi nos réunions sont si longues, car je viens d'ici pour enregistrer. Vous pouvez voir là, dans la pièce, les bandes qu'ils sont en train de faire. Et ces bandes iront partout dans le monde. Maintenant, le Seigneur voulant, aussitôt que je partirai d'ici, je repartirai, Dieu voulant, demain matin pour l'Arizona, car j'ai une réunion qui m'y attend. Puis ce sera ainsi tout le long de mon voyage vers le sud. Et vous, gens du sud qui venez de Georgie, du Mississippi, du Texas et d'Alabama, nous passerons par là, jusqu'en Floride. D'ici, je me rends à Phoenix, puis en Californie, et je reviendrai à Dallas. Puis je m'arrêterai peut-être à San Antonio, je pense, et retournerai en Alabama, puis en Floride, et je passerai par là. Ainsi, nous vous verrons bientôt là-bas, Dieu voulant. Continuez à prier pour nous, et nous vous laisserons savoir si le Seigneur nous met à cœur d'avoir quelques jours de réunion ici cet été. J'avais une série de réunions au programme. Beaucoup parmi vous se souviennent de la vision que j'eus à New York, qui disait que ces réunions en Scandinavie, vous vous souvenez qu'elles étaient prévues là-dessus? Pendant que j'étais à New York, j'eus cette vision qui me montra que chacune de ces réunions serait annulée pour une raison ou pour une autre. Je me souviens de l'avoir raconté à certains d'entre vous lorsque nous étions à New York. C'est exactement ce qui est arrivé, parce qu'ils voulaient tous avoir le même jour et ils ne pouvaient pas obtenir le bâtiment. Ainsi donc, cela pourrait laisser un petit espace en juin. Je pense que ce pourrait être la volonté du Seigneur que je revienne ici même pour ces trompettes avant qu'il ne soit trop tard. Voyez-vous, ainsi nous savons que tout arrive à point. J'avais cela à cœur, ainsi il se peut que ce soit ce qu'il désire que nous fassions. Maintenant, je vois que les uns cèdent leur siège aux autres, et là dans les halls et un peu partout, nous souhaiterions avoir assez de place pour asseoir tout le monde. Lorsque nous aurons ces trompettes, nous désirons obtenir le gymnase de l'école secondaire. Je pense qu'il comprend 5 500 places assises. Ainsi, nous pourrions faire asseoir tout le monde et chacun pourrait écouter paisiblement la prédication. Les trompettes sont très très bien. En y jetant un coup d'œil l'autre jour, vous voyez, c'est précisément au 6e saut que sonnent les 7 trompettes, juste avant que le 7e saut ne dévoile la venue de Christ. Ce soir, je désire apporter un message très important avant le service de guérison. Si vous êtes ici et que vous avez l'intention de rester, eh bien, nous essaierons si possible de commencer un peu plus tôt, car il y aura une ligne de prière. Je ne prêcherai pas trop longtemps, mais il y a un message que je désire apporter à l'Église depuis quelque temps. Cela vous fera voir comment les choses se précipitent en ce temps-ci et quelle est notre position exacte, et ce sera au mieux de ma connaissance des Écritures. Ce matin, je désire que vous alliez avec moi dans le livre d'Ésaïe. Vous pouvez inscrire ou prendre note des passages que nous lirons dans ce livre. Je désire lire le chapitre 42 d'Ésaïe. Nous sommes très heureux aussi d'avoir Frère Dard parmi nous ce matin. Tandis que nous tournons les pages, vous savez, l'autre jour, on ne pensait pas ici à Shreveport qu'il allait pouvoir vivre. Et il eut certainement la foi, oui monsieur. Il s'en sortit très bien. Que le Seigneur le bénisse. Vous voyez, Frère Dard a 90 ans et il eut une syncope et une crise cardiaque en plus de cela. Le docteur lui avait dit qu'il ne voyait pour lui aucun moyen de s'en tirer. Mais Frère Dard vit et le docteur est mort. Voyez-vous, c'est simplement, eh oui, Frère Dard qui est assis ici. Un homme âgé de 90 ans avec une défaillance et une crise cardiaque. Et en allant là-bas, je le vis dans une vision qui descendait une rue. Puis je le vis ici à l'église. Alors qu'il était sous la tente à oxygène, j'allais le voir et lui dis, « Au nom du Seigneur, je vous serrerai la main dans... Je vous verrai de nouveau à l'église et je vous serrerai la main dans la rue. » À la réunion même qui suivit, il était assis là derrière. Puis nous sommes allés manger au Blue Bar, à Louisville. Et comme je sortis de ma voiture et me mis à monter la rue, j'aperçus Frère Dard qui descendait cette même rue. C'est exactement cela. Et combien le Seigneur l'a béni. Nous parlerons ce soir de la guérison et de ces choses. Ils ont des témoignages très frappants à vous apporter. Ainsi, maintenant, afin que je puisse commencer à enregistrer, et tandis qu'ils se préparent à mettre les bandes en marche, je désire commencer à lire Ésaïe au chapitre 42, du verset 1 à 7. Puis Matthieu au chapitre 4, en commençant, je pense, au verset 15 et 16. Lisons maintenant Isaïe au chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour prêter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, je désire lire l'accomplissement de cette prophétie donnée par Ésaïe. Chapitre 4 de Matthieu. Si possible, commençons au verset 12, au lieu du verset 15. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, c'est un petit texte étrange que j'ai entendu quelqu'un qui, en parlant, disait ceci. Mais je désire prêcher là-dessus. Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Maintenant, nous allons aborder le sujet de la lumière. Ceci fera suite aux trois messages que nous venons de prêcher. Nous avons vu dans l'un de ces messages, à Toussaint ou à Phoenix, pourquoi Jésus devait venir de Bethléem. Il devait en être ainsi, parce qu'il est Bethléem. Bethléem, Beth signifie maison, El signifie Dieu, E-H-E-M signifie pain. La maison du pain de Dieu. Et chaque chrétien qui naît en Christ naît dans Bethléem, la maison du pain de Dieu. Puis dans cette leçon, je pris le type de David qui s'enfuit lorsque banni de son peuple. Il fut rejeté, puis Bethléem fut assiégé, et les Philistins étaient postés tout autour de la ville. David, qui s'enfuyait à ce moment-là, est un type de l'Église, de Christ aujourd'hui. Vous voyez, Christ s'est enfui de sa propre Église aujourd'hui. C'est un fugitif, quelqu'un de rejeté. Et David, bien qu'il était oint comme roi, le prophète l'avait oint, avait été rejeté. À ce moment-là, s'étant enfui de son peuple, il avait emmené beaucoup de vaillants hommes des nations. L'un d'entre eux tua une fois 800 hommes avec une lance ou une épée. Et un autre sauta dans une fosse et tua un lion par un jour de neige. Une autre fois, il ramassait des lentilles. Il s'agit de fèves ou de pois, ou quelque chose comme ça. Les hommes prirent la fuite, mais l'un d'eux se tint là et tua des Philistins jusqu'à ce que son bras devienne fatigué. Ils tuèrent aussi ces géants, les frères de Goliath, de vaillants hommes qui tenaient à David parce qu'ils savaient qu'il venait en puissance. Ils le savaient. Peu importe ce que quiconque disait, Dieu faisait reposer son onction sur David, et ses gentils le savaient. Peu importe combien son peuple l'avait rejeté, il savait qu'il venait au pouvoir. Et un jour, là-bas, quel merveilleux type de Christ aujourd'hui qui est fugitif. Vous dites, Christ un fugitif? Selon la Bible que nous, Dieu nous a vaillamment fait traverser ces 7 âges de l'Église. Et en cet âge de l'Église de Laodicée, Christ s'est enfui de son Église, ayant été rejeté, et il essaie d'y entrer de nouveau. Voyez-vous, il s'est enfui de sa propre Église. Et la raison pour laquelle il s'est enfui, c'est qu'il est la parole, et qu'ils ne veulent pas la laisser entrer. Au lieu de celle-ci, ils ont accepté les credos. Et nous découvrons alors que ces vaillants hommes qui entouraient David dans cette grande lutte étaient des gentils. Avez-vous remarqué comment Bethléem fut fondée? Nous ne désirons pas entrer dans ce sujet, mais comment Bethléem? En réalité, ce fut le fils de Rahab, la prostituée, qui fonda Bethléem. C'était une région à blé et il y avait là beaucoup d'eau potable. Ce fut lui qui fonda la petite ville. Et c'était la plus petite de toutes les îles, car le prophète dit, « Toi, Bethléem de Judée, n'es-tu pas la plus petite parmi les princes des villes de Judée, mais de toi sortira le gouverneur qui gouvernera mon peuple, de celle qui est petite. » Quand le prophète Samuel monta là-bas pour joindre le roi et que David fut choisi, tous les grands frères se tenaient là debout, de grands et braves hommes. Oh, ils avaient une belle apparence, ils ressemblaient à des rois, mais c'est sur celui qui était rejeté, sur David, que fut répandue l'huile. Et c'est dans la ville rejetée que Christ est né. C'est le rejeté que Christ choisit, voyez-vous, ceux qui sont rejetés. Puis nous voyons ensuite que vint Boaz, et après celui-ci Obed, qui naquit de Ruth, et celui-ci engendra Jessé, et Jessé engendra David. Et c'est dans une petite étable de flanc de colline, là-bas, que naquit le roi des rois, Jésus-Christ, le fils de David, son fils spirituel. Puis il était, il devait venir de cette petite ville, puisque David lui-même y était né. Celle-ci fut appelée Bethléem, ce qui signifie la maison du pain de Dieu. Et il est la maison du pain de Dieu. Puis un jour qu'il se trouvait là, sur la colline, David regarda en bas et vit les Philistins postés tout autour comme cela. Il dut avoir chaud et avoir soif. Il dit, « Oh, si je pouvais encore boire de l'eau de cette citerne !» Eh bien, la moindre de ses pensées était un commandement pour ceux qui l'aimaient. Il en est ainsi aujourd'hui. La moindre des pensées de Jésus, tout ce qui concerne sa parole, devrait être un commandement pour nous, gens des nations qui l'aimons, parce que nous savons qu'il vient en puissance, peu importe combien il est rejeté. Les cieux et la terre passeront, mais ceci régnera toujours lorsqu'ils seront disparus. Et nous savons qu'il vient en puissance et que rien ne peut empêcher cela. Ceci est Christ, la révélation de lui-même, et cette chose arrivera exactement comme la parole le dit, car il est la parole, et le moindre de ses commandements, si petit soit-il, qu'il s'agisse de se faire rebaptiser ou de quoi que ce soit, nous le ferons de toute façon. C'est son commandement. Et la moindre des pensées de David était un commandement pour ses gentils, car ils étaient un type de l'Église des nations aujourd'hui, de vaillants hommes. Voyez-vous, ces hommes qui entouraient David étaient des gentils, mais c'étaient de vaillants hommes. Ils étaient intrépides, ils ne connaissaient pas la peur. L'un d'entre eux prit une épée et tua 800 hommes qui l'entouraient. Quel homme c'était! Un guerrier égyptien accourut contre l'un de ces hommes avec une longue lance. Cet homme-là n'avait qu'un bâton dans sa main, mais de son bâton il fit tomber la lance de la main de l'Égyptien, s'empara de celle-ci et le tua. Voyez-vous, l'un de ces géants avait des doigts de 35 centimètres et demi. Comme ceci. Maintenant, 35 centimètres et demi, vos doigts sont de la même longueur que votre poing. Si vous ouvrez complètement la main, cela ferait une main de 71 centimètres. Et il avait une lance. Mais l'autre s'élança et le tua. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'était un vaillant homme, un gentil qui regardait à un oint, sachant que celui-ci venait en puissance. Avez-vous remarqué que ceux qui manifestèrent leur vaillance à son égard, David, quand il parvint finalement au pouvoir, les fit régner sur les villes. Jésus n'a-t-il pas promis la même chose? Exactement, il les fera régner. Puis lorsque David fut là-bas et que son désir fut de boire de l'eau fraîche, là-haut, il avait probablement de la vieille eau chaude et stagnante. Or, il se mit à penser à l'eau fraîche qu'il y avait là-bas à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Il dit, « Si seulement je pouvais boire de l'eau de cette citerne. » Et ses hommes tirèrent leur épée et combattirent les Philistins sur un parcours de 25 kilomètres. Ce n'est pas qu'il leur avait demandé cela, mais c'est que ceux-ci savaient que c'était son désir, et ils battirent les Philistins tout le long jusqu'à la citerne. Tandis que deux d'entre eux combattaient, le troisième remplissait son seau d'eau. Et ils combattirent tout le long du chemin en revenant et apportèrent cette eau à David. Vous parlez de vaillants hommes. David, cet homme pieux, dit, « Que Dieu me garde de boire cette eau de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. » Il fit une offrande d'eau en la répandant par terre devant l'Éternel. « Donnez cela à l'Éternel, lui en est digne, pas moi. » Un type même de Christ avec sa propre vie éternelle en lui, mais rocher frappé, il l'a répandu pour nous sur le sol comme sacrifice d'expiation, afin que cette parole puisse vivre. Ô gentil, comme je le disais, qui tirera cette épée avec moi? Ils désirent de l'eau fraîche ce matin, non pas cette vieille eau stagnante de credo d'église et toutes ces choses auxquelles nous nous attardons. Ils désirent une foi véritable en sa parole. Une foi qui en croira chaque mot. Allons à la citerne et rapportons de l'eau fraîche, un culte d'adoration qui consiste non en des credos et en une dénomination, mais en un véritable esprit d'adoration, avec Christ au milieu de nous, vivant sa vie de la façon dont il le désire. Ce n'est pas avec des credos et toutes sortes de choses qu'il faut le recevoir, mais simplement de cette façon-là. Ensuite, nous voyons que Dieu parla à son peuple par un songe du temps de Joseph. Avez-vous remarqué que le songe vient en second lieu? C'est ce que Dieu utilise en second lieu. Il y a des gens qui peuvent rêver, mais cela ne signifie rien. Vous pouvez trop manger et faire un cauchemar. Donc, le songe vient en second lieu, voyez-vous? Eh bien, pourquoi Dieu protégeait-il son propre fils au moyen d'une chose secondaire? Il apparut à Joseph. Il annonça la prospérité de son propre enfant par une chose de seconde importance. Y avez-vous jamais pensé? C'est qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Il dut travailler par des songes. Maintenant, ce songe n'avait pas besoin d'interprétation. L'ange du Seigneur dit, « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'était une chose très exceptionnelle. Joseph étant un homme juste, il était exceptionnel. Dieu est exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel est dur à comprendre. C'est pourquoi il est dur de comprendre la vérité aujourd'hui. Elle est si exceptionnelle. Qu'une femme ait un bébé sans connaître d'homme, c'était très exceptionnel. Mais si vous êtes honnête et sincère, Dieu peut vous apparaître encore en songe. Cela montre que tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, que ce soit d'utiliser votre intelligence, que ce soit de siffler, de chanter, de témoigner ou de faire n'importe quoi, si tout votre être lui est soumis, Dieu peut l'utiliser. Puis le lendemain soir, frère Neville a prêché ici sur l'échappatoire, comment l'homme s'échappe. Je pense que c'était assez remarquable. Et ce matin, le Saint-Esprit semble me conduire à parler de la lumière. Ce qui fait directement suite à cela. En partant du commencement, nous avons vu comment la vie de Christ commença à la crèche. Nous y sommes revenus directement dans notre leçon. Il ne le savait pas, moi non plus. Et voici que cela aboutit à la même chose. Voyez-vous, ensuite, nous sommes arrivés au commencement de son ministère. Et ce soir, Dieu voulant, nous continuerons avec quelque chose qui se mélange directement à cela. Maintenant, une grande lumière. Une grande lumière se leva sur les gentils qui étaient dans les régions de l'ombre de la mort. Zabulon et Nephtali, qui étaient de la Galilée des gentils, virent une grande lumière. Or, la lumière originelle, nous la trouvons dans la Bible en Genèse 1:3. Ce fut la parole parlée de Dieu qui créa la lumière. Dieu dit, que la lumière soit, Genèse 1:3, et la lumière fut. Ainsi, souvenez-vous, que la lumière vient par la parole parlée de Dieu. Elle en est la confirmation ou ce que Dieu a prononcé. Lorsque la lumière jaillit, cela montre que Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière, et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une preuve, c'est une confirmation de sa parole parlée. Nous avons la même chose aujourd'hui, une confirmation de sa parole parlée. Maintenant, lorsque vous voyez sa parole être confirmée, ou autrement dit être dévoilée, prouvée, c'est la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, rien ne peut vivre. Tout ce qui vit sur la terre aujourd'hui doit venir par la lumière du soleil, la vie végétale, etc. Et il n'y a aucune vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Voyez-vous, il est la lumière. Maintenant, nous découvrons dans notre leçon, et cette lumière, la terre était informe. Certaines gens essaient de prouver aujourd'hui dans leurs écoles que le monde est vieux de millions d'années. Ils essaient de condamner la Bible et de dire qu'elle a tort. C'est qu'ils ne lisent jamais la Bible, c'est tout. Car la Bible ne nous dit pas depuis combien de temps la terre existe. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Quand, comment, nous ne savons pas. Ceci est la première phrase et il y a un point qui marque la fin de cette phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela pourrait avoir été il y a 100 millions, 100 billions d'années, ou peu importe. Et comment l'a-t-il fait? C'est lui qui le sait, voyez-vous, pas moi. Mais le monde, la terre, était informée vide, et l'eau recouvrait la terre. Et Dieu, qui se mouvait au-dessus de l'eau, dit, « Que la lumière soit !» Or, je crois que le soleil et ses choses existaient déjà. Je crois que la lune, comme cela est expliqué au verset 3, je crois que le monde où il allait utiliser le soleil existait déjà. C'est pourquoi, lorsque celui-ci pénétra, il y avait un épais brouillard tout autour de la terre qui l'assombrissait. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Les ténèbres disparurent et il y eut un ciel sans nuages. Et je crois que c'est ainsi que Dieu fait les choses. Dans la Bible, le verset suivant nous dit, verset 4, « Et il sépara la lumière des ténèbres, et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. » La parole de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres, voyez-vous. C'est la parole qui sépare. Elle sépare la lumière des ténèbres. Dieu fait toujours la même chose. Lorsqu'il est sur le point d'utiliser quelque chose, comme par exemple lorsqu'il fut sur le point d'utiliser cette vieille étoile ou autre chose, ce monde, il dut séparer la lumière des ténèbres. Lorsqu'il s'apprête à utiliser un groupe de gens, il doit séparer la lumière des ténèbres. Lorsqu'il s'apprête à utiliser un individu, il sépare la lumière des ténèbres. Voyez-vous? La lumière vient de Dieu. Et souvenez-vous, la lumière est venue par sa parole parlée. La parole de Dieu a dit que la lumière soit, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Il envoya la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière. Cette parole de commandement éclaircit le ciel afin que le soleil puisse briller. Et sa parole est ce qui dissipe aujourd'hui toutes les atmosphères d'incrédulité. J'ai eu 11 entrevues, je pense, dans la pièce avant de monter en chair ce matin. L'autre jour, Jim Poole, un de mes amis, amena d'urgence son petit garçon à l'hôpital. Il pensait que c'était une crise cardiaque, mais il s'agissait d'une crise d'asthme qui avait mis le petit garçon. Il ne pouvait pas, son petit cœur battait très vite et il avait de la peine à respirer. Il criait et on aurait dit qu'il se mourait. Lorsqu'il l'amena ici, je me préparais à aller à l'hôpital. Ils l'emmenèrent ici. Je pris sa petite main. Je dis, ce qui a causé cela, c'est la rougeole. Il a la rougeole. Observez-le. Dans quelques jours, je désire le voir à nouveau. Il sera complètement atteint de la rougeole. Et voici qu'il en est complètement atteint. Voyez-vous? Or, ce que Dieu sépare les ténèbres de la lumière, ou la lumière des ténèbres, et il sépare la vie de la mort. Et il le fait par sa parole. Sa parole est ce qui amène toujours ceci. Or, la lumière était, maintenant la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu l'avait plantée, et dès que le soleil put l'éclairer, elle se mit à croître. Et c'est pourquoi il ne fallut que quelques jours pour amener ces choses. Car la semence était déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de la lumière. C'est ainsi que Dieu procède aujourd'hui. Sa semence est déjà ici, sa parole. Tout ce dont elle a besoin, c'est que la lumière l'éclaire. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont la même chose. La vie qui est à l'intérieur est la lumière de la parole, voyez-vous? C'est la vie, le germe de vie qui repose à l'intérieur du grain. Et le grain est... La vie est ce qui fait éclater et ce qui fait sortir la vie du grain. C'est ainsi que Christ, dans la parole, fait faire à la parole ce qu'elle est censée faire. Tout comme la vie dans le grain de blé ou dans n'importe quelle semence. Cela fait faire au blé ce qu'il est censé faire à cause de la vie qui se trouve à l'intérieur. Ainsi, la vie existe seulement par la parole de Dieu rendue manifeste. La vie vient seulement par la parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps que c'est dans le livre, comme ceci, cela peut toujours être mis en doute. Mais lorsque c'est rendu manifeste, alors vous voyez l'accomplissement de ce que la parole a dit qui serait manifesté. Alors c'est la lumière sur la parole, voyez-vous? C'est ce qui apporte, la parole le dit. Puis lorsque cela s'accomplit, c'est la vie de la lumière, car celle-ci apporte la vie. La lumière apporte la vie. Plantez du blé ici dehors, cela. Plantez-le dans un sous-sol, enterrez-le bien, il ne produira jamais rien, car il ne le peut pas, il n'y a pas de lumière. Mais aussitôt que la lumière le frappera, il produira la vie si c'est une semence fertile. Il en est de même avec la parole, voyez-vous? La parole est Dieu. Et lorsque la lumière la frappe, cela la vivifie de nouveau. Dans chaque âge, il en a toujours été ainsi. Oh, combien nous apprécions ces grandes choses! Comment la parole confirmée est la lumière de la parole parlée? Voyez-vous, Dieu a dit que la lumière soit. Qu'en est-il s'il avait dit cela et qu'il n'y aurait pas eu de lumière? Alors, nous ne saurions pas si c'est vrai ou faux. Nous ne saurions pas s'il est vraiment juste. Nous ne saurions pas s'il est Dieu. Car il aurait dit que cela soit et cela n'aurait pas été, voyez-vous. Ainsi donc, lorsque Dieu parle et que nous voyons la chose arriver, alors c'est la lumière qui brille, la vérité de la parole, voyez-vous. Il y a la lumière et la vie. Toute vie naturelle vient par sa parole parlée, et le soleil est sa parole parlée. Il a dit qu'il créa une grande lumière dans le ciel pour le jour et une plus petite pour la nuit, voyez-vous. Et toute vie naturelle doit venir par la parole parlée de Dieu. Une fleur ne peut croître sans que la lumière de la parole parlée de Dieu ne l'éclaire. Car le soleil fut la parole parlée de Dieu lorsqu'il dit « que la lumière soit ». Voyez-vous, c'est la vie parlée de Dieu. Et peu importe combien les gens essaient de dire ceci, cela ou autre chose, il n'en demeure pas moins que vous avez besoin de ce soleil. Ainsi, la vie naturelle ne peut venir que par la parole parlée de Dieu. Et la vie spirituelle, la vie éternelle, ne peut venir que par la parole parlée de vie de Dieu. La vie était le Fils, cette fois-ci. En lui se trouve la lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres. Il est la lumière parlée de Dieu, n'est-ce pas vrai? La parole parlée de Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle sera toujours Dieu, voyez-vous? Et il faut que la lumière de Dieu frappe la parole pour qu'elle vive. Voici ce qu'il a annoncé. Maintenant, laissez briller la lumière. Amen. Laissez-la briller et elle amènera chaque parole à sa position correcte en son temps. Amen. Vous voyez, quand vient le temps, parfois ce petit grain repose dans la terre pendant tout l'hiver comme une semence de blé d'hiver qu'on a semé. Mais lorsque le soleil devient suffisamment chaud, oh, cela doit vivre, voyez-vous. Cela ne peut pas vivre sans le soleil. Et Dieu a fait des promesses pour chaque âge et pour chaque jour, et lorsque la lumière sera favorable et qu'elle éclairera celle-ci, cela produira exactement ce que la parole a déclaré, car il est la vie et la lumière. La parole de Dieu vient seulement par la Bible. La Bible de Dieu est le Fils de Dieu sous forme d'imprimé, car la Bible dit qu'elle est la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle au travers de Christ, et Christ est la parole. Il faut que la lumière de Dieu éclaire cette parole afin de la confirmer.
afin de prouver qu'il parle encore la vie éternelle. Il parle, la lumière naturelle apporte la vie. La vie vient seulement par la lumière, la parole rendue manifeste ou faite chair. Toutes les promesses de la Bible sont devenues manifestes lorsque Christ, la parole, fut faite chair parmi nous. Dieu opère toujours au travers de l'homme. L'homme est le sujet de Dieu. Maintenant, si vous avez trop chaud, vous pouvez ouvrir les fenêtres ou faire comme vous le désirez, arrêter le chauffage. Peut-être si le concierge arrêtait le chauffage pour quelque temps. Je vois que plusieurs ont chaud, et il fait chaud aussi lorsque vous tenez debout ici. Ainsi, souvenez-vous que je suis content qu'il fasse chaud au lieu de faire froid, car j'aime la chaleur, n'est-ce pas? La chaleur amène toujours la lumière, la vie. Il faut du feu. Remarquez maintenant, faites chair. Lorsque la parole fut faite chair, elle fut manifestée. Par exemple, prenez la parole et mettez-la à la bonne place, dans la bonne terre. Elle se reproduira. La semence se reproduira selon son espèce. Si la parole est semée dans la sorte de cœur qui convient, elle se manifestera. Elle amènera la lumière qui l'éclairera. Très bien. Rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Ainsi, la vie peut seulement venir par la lumière. Rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Pensez à cela. Bon, mais lorsqu'il nous envoie la lumière, voyez-vous, et qu'il fait toutes ces choses, et qu'alors nous rejetions cela, c'est une triste chose quand quelqu'un rejette la lumière qui lui est envoyée. Pourriez-vous vous imaginer un homme aujourd'hui qui dirait « Je refuse d'admettre qu'il y a un soleil, je ne crois pas que cela existe. » Il descendrait vite dans un sous-sol, fermerait toutes les portes, s'asseoirait dans l'obscurité en disant « Le soleil, ça n'existe pas. La lumière, ça n'existe pas. » Vous seriez à ce moment-là que quelque chose ne va pas mentalement avec cette personne, voyez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'un homme descend dans un sous-sol obscur et refuse de profiter de la lumière qui vient de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il refuse ses rayons chauds, il refuse sa substance bienfaisante, il ne veut pas marcher dans sa lumière, mais préfère plutôt s'asseoir dans l'obscurité. Cela prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Et je dis ceci avec amour et respect. Ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement avec un homme qui s'empresse de retourner à ses dénominations de credo et qui refuse de voir la lumière de la Bible lorsque celle-ci brille juste sous ses yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il retourne à ses credos et à ses formes et ferme la porte en disant « Oh, une chose pareille, ça n'existe pas. Le jour des miracles est passé. La guérison divine, ça n'existe pas. Ni aucune de ces choses, c'était pour un apôtre. » C'est que l'homme est fou spirituellement. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il a tiré les rideaux et a rejeté le Saint-Esprit qui pouvait descendre sur lui. S'il peut, si vous demeurez en moi et que ma parole est en vous, la lumière éclairant cette parole, demandez ce que vous voulez. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas pour qu'il rejette la source de vie que Dieu nous a donnée, sa parole. Le juste vivra par la foi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, non pas d'une partie de la parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand un homme refuse carrément cela, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, quelque chose de faux avec son expérience, alors qu'il affirme aimer Dieu et qu'il le rejette. Vous savez sans l'ombre d'un doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un qui rejette cela, quelqu'un qui s'empresse de descendre dans cet endroit et qui dit « Maintenant, je ne veux rien savoir à ce sujet. Ne me parlez pas de ces choses. Je n'en crois rien. Vous, peu importe ce que vous dites. » Un homme me dit, il n'y a pas longtemps, je vous en parlais, il dit, « Peu m'importe si vous m'ameniez 50 cas de cancer et que vous m'ameniez 50 médecins pour témoigner de leur guérison. Je ne crois pas. Peu m'importe si vous ressuscitiez les morts devant moi. Je ne le croirais pas. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Il y a... Et pourtant, l'homme était un ministre, voyez-vous, censé être un ministre. Parce que son organisation ne croit pas dans la puissance de Dieu et qu'elle ne croit pas la parole telle qu'elle, cet homme s'est enfoncé dans le vieux sous-sol sale et infect de l'organisation et il refuse la chaleur des rayons vivifiants du Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme-là. Il préfère vivre dans cette moisissure, dans cette obscurité, plutôt que dans la lumière du Dieu et de la Bible qui a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les œuvres que je fais, vous les faites aussi, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Sans aucun doute, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous tous qui entendez ceci à travers le monde, où que vous soyez, il y a quelque chose de faux avec votre expérience lorsque vous dites que vous aimez Dieu et que vous refusez sa parole. Il y a quelque chose, vous refusez, ce n'est pas étonnant que les choses ne puissent pas, que l'Église soit dans une telle condition, que les choses ne puissent pas s'accomplir comme Dieu l'a promis. C'est que vous ne voulez pas, même pas recevoir la parole ou marcher dans la lumière. La Bible dit, marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Puis le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Ainsi donc, si nous marchons dans la lumière de l'heure, Dieu prend cette parole de l'heure et la confirme exactement comme il l'a dit en Genèse 1:3. Il dit, que la lumière soit. Et la lumière parut, et sa parole sortit, puis la lumière suivit et dissipa le brouillard. Les ténèbres s'en allèrent d'un côté, et la lumière brilla de l'autre. C'est ainsi que Dieu agit aujourd'hui. Il envoie sa parole pour cette heure-ci, puis le Saint-Esprit vient la vivifier, les ténèbres vont vers les credos et les dénominations, tandis que la lumière brille. Car c'est la parole de Dieu qui est confirmée comme étant la vérité. Or, il n'y a rien d'imaginaire à ce sujet. C'est parfaitement scripturaire. Bon. Maintenant, nous voyons que les mages, les rois mages d'autrefois, ont suivi la substance donnée de Dieu. Ils suivirent la parole de Dieu jusqu'à la lumière, car c'était la parole qui apportait la vie. Maintenant, vous dites, comment l'ont-ils suivi? Eh bien, nous comprenons qu'ils étaient des mages. Et puis, nous découvrons dans les Nombres 24-17 que Balaam, le prophète, Balaam lui-même était une sorte de mage. C'était véritablement un prophète. Nous voyons dans ce chapitre qu'il prophétisa qu'une étoile s'élèverait de Jacob. Et lorsque ces mages virent que la parole de Dieu disait qu'une étoile s'élèverait de Jacob, ils suivirent ce petit signe donné de Dieu jusqu'à la source de la lumière éternelle. De même aujourd'hui, les hommes sages qui ne sont pas aveuglés par des credos suivront la parole parlée donnée de Dieu jusqu'à ce qu'ils voient s'épanouir la plénitude de la puissance de Dieu dans cette heure. Voyez-vous, ils la voient et ils savent qu'elle est ici dans l'Écriture. Dieu l'a promise pour aujourd'hui. Peu importe tout ce qu'on dit aux mages dans les observatoires, eh bien, vous avez perdu la raison. Ils voyagèrent pendant 2 ans, traversant beaucoup de pays. Où allez-vous? Leur demandait-on. Oh, nous avons vu ton étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et quand ils arrivèrent à Jérusalem, le quartier général des nationels n'avait aucune réponse. Ils allèrent partout dans les rues, criant, où est né le roi des Juifs? On ne savait rien à ce sujet. Ainsi, ils consultèrent la parole pour le savoir. Ils avaient suivi cette étoile et ils savaient qu'elle les conduisait vers la lumière éternelle. Guide-nous vers ta lumière parfaite. La parole est ce qui nous guide vers la lumière et la lumière est ce qui confirme la parole. Amen. Remarquez, c'était des hommes sages et les hommes sages aujourd'hui n'ont pas la sagesse du monde. Car celle-ci est une folie pour Dieu. Avec tous vos scientistes, et vous qui dépendez de quelque grand érudit ou autre qui vous enseigne comment séparer un atome, cela ne peut pas vous donner la vie. Il n'y a rien qui puisse vous donner la vie si ce n'est la parole parlée de Dieu. Le seul moyen par lequel la vie puisse venir, c'est par sa parole parlée. C'est très bien de savoir comment séparer un atome. Je souhaiterais qu'il ne l'ait jamais découvert. Mais ils doivent le faire, car ce monde est suspendu aujourd'hui. Cela devait arriver afin de faire éclater ces gros trous dans la terre et de faire sortir cette lave pour renouveler ce monde et en faire une nouvelle terre où les justes marcheront sur la cendre des méchants, où le péché sera oublié. Chaque chose a un mode de renouvellement. En acceptant de vivre par sa propre sagesse, choisissant l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de la vie, l'homme détruira la terre que Dieu lui a donnée pour vivre. Mais ceux qui vivent toujours de l'arbre de la vie parviendront à des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura ni maladie, ni deuil. La lumière, Seigneur, envoie-nous la lumière. Ce furent les anges de Dieu qui montrèrent la lumière aux bergers sur la colline pour les conduire jusqu'à la lumière éternelle. Voyez-vous, cela vient seulement par la lumière. La vie peut seulement venir par la lumière. Les bergers désiraient savoir, vous savez, quand un roi naît, on chante et il y a de grandes réjouissances. Or, il est né si secrètement. Et en plus de cela, dans une étable, dans une crèche où mangeaient le bétail et les chevaux. Mais pourtant, c'était un roi. Les anges descendirent et chantèrent les hymnes aux bergers dans la lumière. Les anges eux-mêmes étaient des lumières qui indiquaient avec la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu et ils leur dirent, « Aujourd'hui, dans la ville de David, autrement dit dans Bethléem, est né Christ le Sauveur. » Les anges avaient la parole, et la parole vint par la lumière pour guider. Puis ils suivirent la parole des anges jusqu'à la lumière éternelle. Ils trouvèrent là le bébé emmailloté de l'ange, comme ils disaient, car vous voyez, la vie vient seulement par la lumière. Remarquez, il était la parole faite lumière ou devenue lumière. La parole, il était la parole lumière de cette génération-là, car les prophètes d'autrefois avaient parlé de lui. Et voilà qu'il venait confirmer qu'il était la lumière de la parole parlée de Dieu. Voyez-vous, tout ce que les prophètes avaient dit avait été accompli en lui. Voyez-vous, les prophètes, là-bas, avec la parole, comme Dieu au commencement, lorsqu'il dit que la lumière soit et la lumière vint. Maintenant, le prophète a dit, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, car ce sera Dieu avec nous. Maintenant, ils avaient annoncé cela. La parole était sortie, mais lui, il était la lumière. Qu'était-il? L'accomplissement de celle-ci. Alléluia! Il était l'accomplissement de cette parole. Il était la manifestation de cette parole. Il en est ainsi aujourd'hui. La parole de Dieu a été accomplie pour l'heure. C'est la lumière, Dieu qui se manifeste. Il était la lumière du monde. Le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, dit... Un enfant nous est né, un fils nous est donné, ou un enfant nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Voilà que cela s'accomplissait. Qu'était-il? La lumière qui accomplit cette parole. Amen. La lumière qui accomplit cette parole. Au chapitre 28 de Matthieu, nous voyons que lorsque Jésus ressuscita entre les morts, il fut aussi la lumière de la parole parlée de David qui avait dit, « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » La mort était dans les ténèbres, mais il brisa les sceaux de la mort, entra en elle et en ressortit. Il était la lumière, la confirmation de la parole qui dit que les morts peuvent vivre après la mort. C'est ce qu'il était. Le jour de la Pentecôte, ce fut la lumière qui montra que le Saint-Esprit était venu. Ésaïe disait au 28e chapitre d'Ésaïe, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, voici le sabbat que je vous donnerai. De tout ceci, les gens ne voulaient rien entendre. Ils s'éloignèrent en hochant la tête. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur ces personnes qui agissaient comme des hommes et des femmes ivres, chancelant sous l'impact du Saint-Esprit, les gens s'éloignèrent en hochant la tête et en disant, « Ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux, et ainsi de suite. » C'était absolument la lumière, la parole prophétisée qui était manifestée. Et il en est de même dans chaque âge. La parole rendue manifeste, vivifiée, est la lumière de l'âge. La parole rendue manifeste, exactement comme elle le fut en Genèse 1, lorsque Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, lorsque Dieu dit qu'il y aurait un fils et qu'il y en eut un. Lorsque Dieu a dit en Joël 2, 28, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Et toutes ces choses qu'il avait promises, lorsque le Saint-Esprit descendit, c'était la lumière sur cette parole. Lorsque la parole fut rendue manifeste, elle devint alors la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière que nous devrions suivre. Il est la seule lumière. les anges trouvèrent la lumière et la suivirent jusqu'à Jésus. Maintenant, dans chaque âge, Dieu a toujours mis sa parole en évidence. Toujours, il a toujours quelqu'un en qui il peut placer cette parole et par qui il peut en montrer la lumière. Dans chaque âge, il a toujours fait cela. Jésus était, comme je l'ai dit, l'accomplissement de toutes les divines et saintes puissances des prophètes. Ceux-ci étaient des petits dieux, car Jésus lui-même a dit que lorsque la parole du Seigneur venait à un homme, cet homme était un dieu. Vous savez cela. Il dit, si votre loi l'a dit, et que vos pères autrefois ont appelé Dieu ceux à qui venait la parole de Dieu, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le fils de ce Dieu? Voyez-vous? Alors qu'il était la manifestation même de la parole parlée que Dieu avait parlé au travers des prophètes. Et si un prophète était appelé Dieu parce qu'il était la manifestation de la parole d'un autre prophète, comment pouviez-vous le condamner lorsqu'il était la même chose? Il était le Fils de Dieu, comme il sera appelé le Fils de Dieu. Il était le Messie promis depuis si longtemps attendu. Il était la promesse du Messie rendue manifeste. Regardez-le lorsqu'il se tint là. Il dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi, voyez-vous. Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais. Elles témoignent qui je suis. Elles vous disent qui je suis. Vous voyez dans quelle heure de ténèbres et d'aveuglement il vivait. » Il ne pouvait pas voir cela. Il ne pouvait simplement pas comprendre comment il pouvait être celui-là. Comment peut-il de toute façon être le Fils de Dieu alors qu'il est né juste ici à Bethléem? Si seulement ils avaient su que la parole disait qu'il viendrait de cette façon-là. Eh bien, Joseph, son père, est un charpentier. Sa mère, eh bien, nos frères croient réellement que c'est un enfant illégitime. Voyez-vous? Mais néanmoins, la parole de Dieu disait cela. Il dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi, ces saintes Écritures. Alors qu'était-il? La lumière de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, je suis la lumière du monde. Qu'il n'a pas seulement dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit, vous êtes la lumière. Si sa parole qui est en vous rend témoignage d'elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Remarquez, nous voyons que néanmoins, la lumière de chaque âge fut rendue manifeste. Alors, je vais vous poser la question avant que notre temps soit écoulé. Pourquoi? Pourquoi alors l'ont-ils rejeté? Comment pouvaient-ils faire cela alors que la Bible même qu'ils lisaient était rendue manifeste sous leurs yeux? Maintenant, observez très attentivement. Or, souvenez-vous, je parle à beaucoup de gens à la fois, voyez-vous, pas seulement à 400 ou 500 personnes ici, mais à des milliers. Arrêtez-vous juste un instant, arrêtez votre magnétophone et posez-vous la question. Pourquoi des hommes religieux, honorables, pourquoi Joseph s'interrogeait-il? Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais sondé l'Écriture. Pourquoi les prêtres s'interrogèrent-ils? L'une des raisons pour lesquelles ils ne le firent pas, c'est qu'ils savaient cela. Nicodème l'exprima très bien. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne pourrait faire ce que tu fais si Dieu n'était avec lui. Nous savons cela. Mais qu'était-ce? Leur tradition les empêchait de le faire. Alors pourquoi ont-ils rejeté le Messie? C'est pourquoi ont-ils rejeté cette lumière? Ils savaient bien que la parole allait s'accomplir, mais lorsque celle-ci fut rendue manifeste pour montrer que Dieu avait accompli sa parole, comparez cela avec aujourd'hui. Voyez-vous? Alors que c'était écrit là, dans la parole, qu'il se produirait, alors pourquoi ces hommes, ces docteurs, ont-ils rejeté cela? Parce qu'ils vivaient dans le reflet d'une autre lumière. Ils vivaient dans un reflet. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils vivent. La raison pour laquelle ils refusent cela, c'est parce qu'ils vivent à la lueur d'une autre lumière. Voyez-vous? Maintenant, ils vivaient dans le reflet de ce que Moïse avait dit. C'est ce qu'ils affirmaient. Ils vivaient dans le reflet sous lequel un autre âge était passé. Et c'est la même raison, c'est la raison même pour laquelle aujourd'hui, ce message qui montre que Jésus-Christ est toujours le même est rejeté. C'est que les gens vivent dans les reflets d'autres âges. Pour la même raison, ils refusent cela. Maintenant, nous remarquons, et Webster dit qu'un reflet est une sorte de fausse lumière. Un reflet est une fausse lumière, quelque chose qui brille. C'est comme lorsque vous conduisez sur la route et qu'il y a un mirage. Vous regardez devant vous et vous apercevez le reflet du soleil sur la chaussée. On dirait que celle-ci est pleine d'eau, mais il s'agit d'un mirage. Car lorsque vous y arrivez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. C'est seulement un mirage, le reflet d'une lumière réelle. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il montre aux gens un mirage, un conseil d'église, un groupe de dénomination, ce qui s'avérera faux. Mais c'est parce qu'il y a une vraie lumière qui brille. Si cette vraie lumière ne brillait pas, il ne pourrait pas y avoir de mirage. Une vraie lumière qui brille. Ils vivent dans le reflet d'un autre âge, d'une autre chose. Car cela s'est manifesté et s'en est allé. Maintenant, ce reflet, ce mirage est quelque chose de faux. C'est un reflet du soleil. Et c'est ainsi qu'il en est. Ils ont fait la même chose. Un faux reflet de la vraie lumière. Or, il a été prouvé qu'il était la véritable lumière. Il était la lumière. Pourquoi furent-ils qu'il était la lumière? Comment pouviez-vous dire pouviez-vous savoir qu'il était la lumière? Parce que la parole promise était rendue manifeste au travers de lui. Ainsi, il était la lumière de cette parole parlée. Amen. Oh, moi, un baptiste pentecôtiste, cela me donnerait presque envie de crier. Remarquez, pensez à cela. Un reflet, voyez-vous, vivant dans un reflet. Mais lorsque la véritable parole vit, c'est la lumière, ce que Dieu a dit. Maintenant, si Dieu avait dit au commencement que la lumière soit et que quelque chose d'autre serait apparu, un simple reflet, voyez-vous, ça n'aurait pas été ce que Dieu a dit. Non, ça ne l'aurait pas été. Et si Dieu avait dit que la lumière soit et qu'il y aurait eu encore plus de brouillard, voyez-vous, cela n'aurait pas été la lumière. Mais la raison pour laquelle la lumière vient, c'est que c'était sa parole manifestée. Et lorsque Dieu a dit que de telles choses se produiraient en ce temps-ci, et que vous voyez cela s'accomplir, qu'est-ce? C'est la lumière sur la parole de Dieu. La parole qui est faite lumière, qui se manifeste. Et maintenant il disait, que dis-tu que nous sommes? Eh bien, il dit, vous essayez de, oh, nous savons que tu es fou. Eh bien, tu es un samaritain, tu n'as pas toute ta raison, tu essaies de, qui peut dire, nous savons que tu es né dans le péché? Nous ne savons pas d'où tu viens. Nos groupes ne possèdent aucune preuve de ton identité. Eh bien, tu es fou. Tu as un démon, voyez-vous. Ils dirent, eh bien, tu as perdu la raison. Mais il était en réalité la véritable lumière de Dieu qui brille. Et le reflet avait aveuglé leurs yeux. Nous avons Moïse comme guide. Il dit, si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez connu. Et si vous croyez Jésus et la Bible, vous connaîtriez cette heure dans laquelle vous vivez. Ils disent, oh, nous sommes chrétiens, nous. Si vous l'étiez, vous sauriez ce que fait Christ aujourd'hui. Voyez-vous, vous le sauriez. Jésus disait, tous ces prophètes ont parlé de moi. Et si vous croyez les prophètes, eh bien, vous me connaîtriez. Mes œuvres m'identifient. Car ce qu'ils ont dit que je ferais, je le fais. Et qui peut me condamner d'incrédulité? Mais néanmoins, ils ne virent pas cela. Pourquoi? Leurs yeux étaient aveuglés par un reflet, voyez-vous, le reflet de quelque chose d'autre qu'ils avaient pris au lieu de ce que disait la vraie parole parlée. Maintenant, pensez à cela, pensez-y, ils affirmaient croire cette parole, mais leur tradition avait détourné leur visage de la vraie parole vers un reflet. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas voir la chose réelle. Il en est ainsi aujourd'hui, il en a été ainsi dans chaque âge. Voyez-vous, la véritable parole brille, mais ils ont été si ancrés dans leur tradition qu'ils ne pouvaient pas la voir. Ils regardent un reflet et ils sont aveugles. Un reflet vous aveuglera. Il y a un halo qui en ressort. Cela vous aveuglera. Et cela, Jésus disait, vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils auraient été capables de voir cela, mais de voir qui il était, mais ils ne le virent pas parce qu'ils vivaient dans ce reflet. Maintenant, un reflet, comme je l'ai dit, est une fausse lumière, un mirage, une fausse perception de la véritable lumière, une fausse perception. C'est quelque chose qui est censé en avoir l'air, mais qui ne l'est pas. Maintenant, c'est la seule façon dont il pouvait faire la différence. Parce que les choses mêmes que fit Jésus prouvèrent qu'il était la lumière. Il se croyait dans la lumière, mais maintenant, si vous vouliez simplement vous arrêter un instant et considérer qui est dans la lumière alors, Si les hommes d'Église de ce temps-là ont commis une telle erreur de jugement, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui il est temps que nous nous arrêtions et que nous considérions ce qu'est la lumière? Ne commettons pas une telle erreur de jugement. Mais vous êtes en train de le faire. Vous l'avez déjà fait, voyez-vous, et vous ne le saviez pas. Vous commettez la même erreur. Maintenant, arrêtez-vous un instant et informez-vous de ce que la parole dit pour aujourd'hui. S'il s'était arrêté et avait réfléchi, voici qu'il a compté exactement à la lettre ce que la parole a dit qu'il ferait. Et il les adjura comme je vous adjure de regarder dans la parole, sondez les Écritures, voyez si ce n'est pas maintenant l'heure. Sondez les Écritures, en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi, ce sont elles qui témoignent de cette heure aujourd'hui, les œuvres elles-mêmes témoignent que cela est en train de s'accomplir. Et l'Écriture dit que cela s'accomplira. Ainsi, c'est la lumière de l'heure. La parole de Dieu l'a dit. Avec vos traditions et ainsi de suite, vous faites exactement ce que la Bible a dit, comme ceux qui hochèrent la tête et s'éloignèrent. Toutes les tables sont pleines de vomissements, dit la Bible. Et c'est ainsi qu'ils ne voulaient pas le croire. Ils hochèrent la tête. Messieurs, réalisez-vous, et vous, frères, réalisez-vous ceci, que lorsque vous rejetez la chose même que Dieu confirme sous vos yeux, vous faites exactement ce qu'ils firent, retournant votre vomissure traditionnelle, comme un chien retourne ce qu'il a vomi. Si cela l'a rendu malade la première fois, cela le rendra malade la deuxième fois. Si l'Église catholique qui forma la première organisation rendit l'Église malade, de même aussi les luthériens, les méthodistes et tout le reste, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes la rendront malade. Un chien retourne à ce qu'il a vomi et une truie retourne à son bourbier. Voyez-vous, nous allons en venir à cela en quelques minutes, Dieu voulant. Un reflet, marchant dans un reflet, voyez-vous, un mirage, une fausse perception de la vraie lumière. Il prouva qu'il était la lumière, parce qu'il était dans la minorité. Oh là là, il en avait des millions contre lui. Il n'y avait pas un sixième ou un neuvième de la population de la terre qui savait qu'il était là. Il n'y avait pas un centième des Juifs, je pense, ou à peine un cinquantième ou un quarantième, je dirais, peut-être moins que cela, des gens de son propre pays qui savaient qu'il était là. Et ceux qui savaient qu'il était là le considéraient comme quelque chose de faux, parce que leur dénomination leur disait cela. Voyez-vous? Mais pourtant, il était la véritable lumière. La lumière qui avait été annoncée depuis la Genèse au commencement. Et il leur demanda de sonder les Écritures et de découvrir s'ils ne vivaient pas précisément en ce temps-là, si les œuvres qu'ils faisaient n'accomplissaient pas exactement ce qui était promis pour ce temps-là. Amen. Comme c'est sérieux, frère. Nous vivons dans un temps très important. Il prouva qu'il était précisément celui-là. Il était la lumière même qu'il prétendait adorer. Il prétendait adorer cette lumière, et il en est ainsi aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils adorent cela, les pentecôtistes prétendent cela, ils prétendent qu'ils le font, et ils sont si aveugles qu'ils ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Ils se sont organisés et ont mis un reflet dans leur visage. Voyez-vous, une tradition, lorsque certaines gens se réunissent et disent, « Eh bien, nous allons faire ceci, et ceci, et ceci, et cela. » Nous expliquerons, Dieu voulant, pourquoi cela doit arriver. Remarquez, ses œuvres étaient la parole vivante. Ce qu'il fit était la parole vivante elle-même, montrant qu'il était cette lumière qui avait été promise depuis le commencement du monde. Il était cette lumière. Sa lumière sur la parole promise de l'âge vivifia celle-ci pour qu'elle fasse exactement ce que la promesse avait dit qu'elle ferait. Mais cette parole avait été tellement tordue qu'il ne pouvait pas la voir, voyez-vous? Mais il était la lumière de cet âge. Il était la lumière qu'ils prétendaient adorer. Ils pensaient adorer le Dieu même de la création, mais ils adoraient un reflet. Et Jésus dit, « Vous m'adorez en vain, enseignant comme doctrine les traditions des hommes et non pas la parole. Il est la parole, et il était la parole rendue manifeste. Ils auraient dû le savoir. J'espère que cela pourra se frayer un passage partout où c'est entendu, voyez-vous, car c'est la parole rendue manifeste. Oh, vous dites, nous avons la parole. Eh bien, la parole, n'importe quel homme, s'il le désire, peut traîner une Bible avec lui. Mais lorsque la parole est confirmée, rendue manifeste, eh bien, vous dites, nous croyons. Oui, monsieur, il croyait toute la parole. Eh bien, Satan aussi. Ces pharisiens-là, qui pouvaient les condamner de ne pas croire? Mais ils ne croyaient pas à la parole de l'heure. Ils adoraient dans le reflet de quelque chose d'autre. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Vous observez les traditions de Luther ou de Wesley et de tous les autres, la tradition pentecôtiste. Mais qu'en est-il de l'heure actuelle? Les pharisiens observaient leur tradition, mais derrière leur tradition se trouvait la véritable parole de Dieu qui venait pour éclairer. Et lorsqu'elle le fit, elle aveugla leurs yeux. Ils ne pouvaient pas voir cela, car ils regardaient quelque chose d'autre. Il en est ainsi aujourd'hui. Que Dieu laisse pénétrer cela jusqu'à ce que cela frappe réellement les gens qui devraient le croire.
Il est plus tard que vous ne le pensez. Mon fils Dilipol parle dans son sommeil, mais il est rare qu'il ait des songes. Il en eut un l'autre nuit qui l'ébranla complètement. Il dit qu'il rêvait qu'il était à l'église et je n'étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque j'entrais, du feu jaillissait de mes yeux. Et je dis, le temps est arrivé, c'est fini. Et tout le monde se mit à crier, je ne peux pas, mes enfants et moi. Ma femme dit, je n'arrive pas à faire prier Sarah à table pour demander la bénédiction, et ainsi de suite. Et je dis, il dit, je dois aller chercher Loïs et le bébé. Je répondis, Loïs ne peut pas venir maintenant, le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, l'heure est arrivée, nous devons partir. Je dis, il est minuit maintenant, avant le lever du jour, Jésus sera ici. Sinon alors, je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un éleva la voix et dit, personne ne connaît ni l'heure ni la minute. Je n'ai jamais dit l'heure ou la minute, j'ai dit à n'importe quel moment d'ici le lever du jour. Et je dis, partons, Billy. Et je dis quelque chose, je dis, mais c'est l'heure, partons. Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Puis nous montâmes sur la montagne, et comme nous montions, on aurait dit que la lumière approchait et qu'il y avait d'épaisses ténèbres sur la terre. Il dit que je m'arrêtais en bordure de la route et que je levais les mains comme ceci. Le feu jaillissait toujours de mes yeux. Puis je dis, Seigneur, j'ai fait ceci selon ton commandement, parce que tu m'as dit de faire ainsi. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. Puis je désignai une grande montagne de granit et une lumière sans le secours d'aucune main détacha de la montagne une pierre qui pesait des centaines de tonnes et voici qu'elle s'approchait. Je dis, tournez vos têtes, ne regardez pas, tout sera fini dans quelques instants. Il dit, comme cette pierre s'approchait de l'endroit, il y eut partout un grand silence saint. Il se peut qu'il soit plus tard que nous le pensions. Voyez-vous, c'est parfaitement scripturaire. Voyez-vous la pierre qui se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main. Il en sera de même un de ces jours lorsque vous crierez pour quelque chose. Je lui ai dit, ce temps-là est déjà arrivé pour toi. Dieu t'a constamment averti maintes et maintes fois. Oui, je dis, que ce soit pour mon propre fils ou qui que ce soit, il est l'heure. Je puis seulement dire ce qu'il m'a dit de dire, et ce sera ici, et ce le fut. Et puis soudainement, voici que vint une pierre qui se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel a vu cela, vous savez, il y a bien des années en arrière. Et Billy ne savait rien à ce sujet-là, mais c'était un songe qui lui était envoyé du Seigneur. Maintenant, voyez-vous, ils prétendaient adorer le Dieu même dont ils se moquaient. Et la même chose s'est reproduite aujourd'hui pour la même raison. Ils vivent dans un reflet au lieu de la lumière. Les grandes lumières ont un éclat. Bon, regardez dans quelles ténèbres nous sommes aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les meurtres, les viols, les grèves, eh bien, il arrivera. Je pense que c'est Billy Graham qui a dit dans sa dernière réunion, dans 10 ans, chaque citoyen de la Californie devra porter sur lui un fusil pour sa protection personnelle. Vous ne pouvez pas assez appliquer la loi. Les gens sont simplement devenus fous. Des fusillades, des meurtres, des viols, toutes sortes de choses, voyez-vous. C'est devenu de la sauvagerie dans les rues. C'est le temps dans lequel nous vivons. Un temps de sodomie, voyez-vous. Mais il y a une lumière qui brille. S'il voulait seulement voir, s'il voulait seulement regarder dans la parole et voir ce qui est censé y avoir dans cette heure, il saurait ce qui est en train de s'accomplir. Maintenant, ils prétendaient adorer cette lumière,
Ainsi, ils prétendaient qu'ils adoraient cette lumière, mais ils adoraient celle-ci dans le reflet d'une autre lumière au lieu de la véritable. Voyez-vous? Il était la lumière. Les credos et les traditions et leurs conditions aveugles, ils les avaient détournés de la vraie lumière de la parole promise. La parole que Dieu avait confirmée par Jésus, la lumière du monde, vint et vivifia cette parole exactement en son temps, au jour fixé. Il sera retranché au milieu des 70 semaines, c'est juste, ce qui fait 3 ans et demi pour sa prophétie. Le Messie viendrait, le prince, et prophétiserait, et 3 jours et demi pour ceci, puis il serait retranché des vivants et ferait une expiation. Et cela est exact. Il a prêché pendant 3 ans et demi, et le psaume même où David disait « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22, « Tous mes os se séparent, il hoche la tête, il passe près de moi. » 850 ans auparavant, David avait chanté ce chant dans l'esprit, et cela était considéré comme une prophétie et donné. Il chantait ses cantiques dans le temple, alors que le même sacrifice était suspendu à la croix avec ses mains percées. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Voyez-vous? Voyez-vous cela? Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans un reflet. Ils n'ont pas vu la lumière. Pourriez-vous imaginer cela d'une personne sensée? Pas plus que je ne peux m'imaginer une personne sensée qui s'enfonce dans un sous-sol, s'enferme dans la moisissure et qui ferme ses portes en disant « Je refuse de voir qu'il y a de la lumière. » C'est de la folie. Et lorsqu'un homme voit que la Bible a promis ceci et que cette promesse est rendue vivante et manifeste sous ses yeux et qu'il continue néanmoins à rester dans ses credos et ses choses qui éloignent ceci, cela montre que sa spiritualité s'est enfoncée quelque part. C'est de la délinquance spirituelle. C'est parfaitement juste. Voici qu'il parut. Il était la lumière du monde et le monde ne l'a point connu, voyez-vous. Mais à tous ceux qui l'ont connu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. À ceux qui ont cru en lui. Souvenez-vous, nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. La lumière d'hier est partie, elle n'est plus. La lumière d'hier est seulement un souvenir. C'est un souvenir, quelque chose du passé. Nous ne pouvons pas vivre dans la lumière d'hier. Pas plus. Et le même, c'est le même soleil. Mais chaque jour, il déploie sa force un peu plus intensément afin de faire mûrir le grain pour la moisson. Voyez-vous? Le soleil qui paraît aujourd'hui devient un peu plus fort. Chaque jour, il deviendra un peu plus fort, jusqu'à ce que finalement le blé qui repose là reçoive la vie. Après quelque temps, la vie sortira. Puis un peu plus fort, mars, avril, mai, juin, juillet, et la moisson est arrivée. Voyez-vous? C'est le même soleil qui aujourd'hui en janvier, ou plutôt en décembre, fait fondre cette neige sur ce grain et lui apporte l'eau. C'est le même soleil. Mais ce blé ne pourrait pas vivre sous celui-ci en juin, voyez-vous? Il ne peut pas faire cela. Chaque jour, le soleil devient un peu plus fort, et le grain devrait être un peu plus mûr pour recevoir la lumière du soleil. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le grain qui fut semé dans les pères du commencement, là-bas, dans Luther et Wesley et ceux-ci, a rapetissé. Il ne peut pas supporter le soleil. Le soleil le tue. Il refuse de croître. Voyez-vous, il est passé de la forme de la tige jusque-là, devenant alors une petite chose distincte, une balle, sans vie à l'intérieur. Le grain devrait mûrir et devenir plus vigoureux, comme le soleil devient chaque jour de plus en plus fort. Maintenant, observons un instant. Nous examinerons les âges de l'Église. Il y a 7 âges de l'Église. Dans chacun de ces âges, voyons comment il leur annonça ce qui serait. Comment le grain mûrirait et parviendrait jusqu'ici, en cette dernière heure dans laquelle nous vivons. Ainsi, les églises doivent faire la même chose. Voyez-vous, les églises. Maintenant, regardez. Luther a semé un grain, et Luther était un grain. Il le sema. Très bien. Même chose pour Wesley, pour les pentecôtistes, pour les baptistes aussi, et pour les nazaréens. Ils étaient des grains. Mais voyez-vous maintenant, Luther ne reviendrait pas vivre dans la lumière de la première dénomination, l'Église catholique. Non, monsieur, il était une autre lumière. C'était Dieu qui faisait mûrir quelque chose. Maintenant, une minorité sortit de ce réveil luthérien. Puis vint ensuite le réveil de Wesley. Puis là-dedans, eh bien, ceux-ci ne pourraient pas retourner et faire les luthériens, voyez-vous. Puis il y eut les pentecôtistes. Et ceux-ci s'organisèrent et firent la même chose, s'emparant de la balle. Mais remarquez que le grain, lui, poursuit sa course. Maintenant, nous sommes dans un autre âge. Pourquoi ne veulent-ils pas recevoir cela?
Pourquoi ne veulent-ils pas voir que le grain est mûr? Voici la parole promise pour aujourd'hui. Pourquoi ne la voient-ils pas?
Parce qu'ils vivent dans le reflet luthérien, le reflet wesleyen, le reflet baptiste, le reflet pentecôtiste. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la lumière de la parole entière, qui est confirmée comme Dieu l'a promise par ses sept sceaux, où tout le mystère fut révélé. Il a promis qu'il reviendrait et dirait pourquoi ces mystères furent accomplis comme cela. Et cependant, lorsque cela se présente, ils s'en éloignent plus que jamais. Ils sont sans excuse. Dieu a fait cela par son esprit au travers des révélations. Il l'a parfaitement prouvé par la science et tout le reste que cela est la vérité. C'est la vérité. Et néanmoins, ils veulent vivre dans un reflet pentecôtiste. J'appartiens aux assemblées, j'appartiens aux unitaires. Oh, je suis de l'Église de Dieu, je suis ceci, voyez-vous. Vivant dans un reflet d'il y a 40 ou 50 ans. Vivant dans un reflet luthérien, wesleyen, baptiste, presbytérien, ou quelques reflets nazaréens, ou d'un autre âge qui s'est organisé et qui a fait la même chose. Ils refusent et rejettent la lumière alors qu'elle brille en ce moment. Vous vivez dans un mirage. Je dis ceci avec respect, voyez-vous, non pas pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Vous vivez dans un mirage, comme lorsque Jésus dit, vous êtes des aveugles qui conduisez les aveugles. Et il dit, il essaya de leur dire, mais ils ne. Ainsi il dit, laissez-les tranquilles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et c'est l'heure à laquelle je suis arrivé. S'ils chancèlent, je ne peux rien faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait exactement. J'ai fait ceci selon ton commandement, Seigneur. Tu m'es témoin. Depuis 1933, lorsque cette lumière est descendue là-bas à la rivière, elle a été ici même dans le tabernacle et nous a témoigné durant toutes ces années. Et tout ce qu'elle a dit s'est accompli. Et il continue sans cesse. Laissez les aveugles conduire les aveugles. J'attendrai simplement cette heure. Il arrivera un de ces jours. Remarquez, vivant dans un reflet de Luther, vivant dans un reflet de Wesley, vivant dans ces reflets passés, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir la vraie lumière. S'ils s'arrêtaient quelques instants et prenaient simplement la Bible et la lisaient, ils verraient que ceci est la lumière promise pour l'heure. Maintenant, nous allons prendre certaines de ces choses dans un instant. Il a promis, selon Malachie 4, que ces choses arriveraient. Il a promis tout au travers des Écritures qu'elles arriveraient, voyez-vous. Remarquez aussi Israël, notre type, durant le voyage. Regardez, la manne qu'ils mangeaient était leur vie-lumière. Elle leur donnait la force, la vie, n'est-ce pas vrai? Israël ne pouvait pas manger la manne qui était tombée hier. Elle était contaminée, elle était pourrie, elle n'était pas bonne pour eux, ils en seraient morts. La manne qui les avait gardés en vie la veille les aurait tués le lendemain. La Bible dit qu'elle était pleine de bactéries, qu'elle était contaminée. Et la manne, ils devaient se procurer la nouvelle manne à chaque jour. Amen. Et qu'est-ce que cela? Vous qui vivez de la manne de Luther, de Wesley et de ceux du passé, vous mangez de la nourriture contaminée qui vous tue spirituellement. Voyez-vous? Cela vous tue. Vous êtes mort dans vos traditions. La manne d'hier, la manne de Luther, ne convenait pas pour les méthodistes. La manne méthodiste ne convenait pas pour les pentecôtistes. La manne pentecôtiste ne convient pas pour aujourd'hui. Voyez-vous ce que je veux dire? Chaque jour, jour après jour, elle tombait fraîche. Et il en a été ainsi pour les âges de l'Église. La manne de Luther fut le message de justification. Le message de Wesley fut la manifestation de la sanctification. La Pentecôte fut la restauration des dons. Mais ceci introduit la pierre fêtière. Le dernier jour, l'arbre de l'épouse. C'est contraire à tout cela, et cependant c'est la même lumière qui fait mûrir. Comme le même soleil qui brille aujourd'hui fera mûrir le grain pour la moisson en juillet. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais la lumière d'aujourd'hui ne prête aucun bien là-bas en juillet. Car en juillet, elle est plus intense, le blé est plus avancé, il est prêt à la recevoir. Amen. Certainement. En ce moment, ce n'est pas la saison favorable. Mais en juillet, ce le sera. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Dieu a une loi. Si vous contrariez cette loi, vous tuez votre plante. Vous devez agir selon les lois parlées de Dieu, et ces lois sont sa parole. Toute loi est une parole parlée, et une parole est une pensée manifestée, voyez-vous. Maintenant, nous savons cela, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une vision?
c'est la parole de Dieu, c'est la prédiction ou la prévision d'un événement. Et les visions qu'avaient les prophètes, et Jésus, et Paul, et tous les autres, qui ont parlé de ce temps-ci, étaient une prévision de ce qui arriverait. Et aujourd'hui, nous voyons la prévision être rendue manifeste, et les gens ne la reconnaissent même pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Or, la manne d'hier, regardez un peu. Avez-vous remarqué que le soleil a toujours voyagé de l'est à l'ouest? La manne d'hier, regardez un peu. Avez-vous remarqué que le soleil a toujours voyagé de l'est à l'ouest? Avez-vous remarqué cela? Et observez, les âges de l'Église ont fait la même chose. Le soleil s'est levé dans l'est, et la civilisation a voyagé avec le soleil, qui est la lumière parlée de Dieu dans laquelle il leur a été donné de vivre. Ils sont venus, ayant suivi le soleil, pour voir où il allait. La vie même, lorsque vous naissez, est comme le soleil. Vous poursuivez votre route jusqu'au coucher du soleil, de votre naissance au coucher du soleil. L'homme a toujours voyagé vers l'ouest. La plus ancienne civilisation que nous ayons est la Chine, dans les pays orientaux, Jérusalem, et remarquez qu'elle continue de voyager vers l'ouest. Et comme elle continue sans cesse vers l'ouest, ainsi l'âge de l'Église a voyagé de la même façon par le Fils de Dieu. Regardez, Paul, l'Église primitive a commencé dans l'est. De là, elle franchit la mer et se rendit en Allemagne. Elle fit trois pulls. Regardez, d'Asie, là-bas, en Palestine, elle franchit la mer et atteignit l'Allemagne. C'était Luther. Et de Luther, elle franchit la Manche et atteignit l'Angleterre avec Wesley. Et de Wesley, elle fit un bond jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Et maintenant, si vous allez plus loin que cela, cela retourne de nouveau vers l'est. Nous sommes au temps du soir. Regardez comment les âges de l'Église, Luther, Paul en premier lieu dans l'âge primitif, puis cela passe à Irénée, et ainsi de suite jusqu'en France, de là jusqu'en Allemagne, puis jusqu'en Angleterre, allant constamment vers l'ouest. Et maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous sommes au dernier âge. Que dit la Bible au sujet de ce dernier âge? Voyez-vous, géographiquement, chronologiquement, et presque de toutes les façons dont vous désirez le considérer, scripturairement d'abord, bien sûr, c'est évident. Historiquement, de n'importe quelle façon que vous désirez le considérer, nous sommes à la fin, au dernier âge d'Église. Et regardez, au fur et à mesure, cela est devenu de plus en plus fort. Et de même, la véritable petite minorité de l'Église a grandi au travers de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, et s'élève maintenant vers la fière fêtière qui vient, se taillant vers le haut. Il n'y a plus d'organisation après ceci. Il n'y en aura plus. Il ne peut plus y en avoir. Voyez-vous, nous sommes dans l'Ouest. Simplement pour vous montrer au travers de tous les types et toutes choses. Et regardez ces trois bancs, ces trois pulls. Nous allons pénétrer là-dedans ce soir, voyez-vous, et montrer comment nous sommes au temps de la fin. C'est simplement, le soleil a voyagé comme le Fils comme le soleil. L'Église a avancé de la même façon au travers des sept âges de l'Église, et ainsi de suite. La civilisation s'est continuellement déplacée vers l'Ouest, et l'Église s'est continuellement déplacée vers l'Ouest. Et maintenant, si nous allons plus loin que nous sommes en ce moment, nous retournons vers l'Est. Si vous quittez la côte ouest, vous retournez directement en Chine, au Japon. 11 200 kilomètres plus loin, vous vous retrouvez à l'est. Ainsi, l'est et l'ouest se sont rencontrés. Et c'est tout. Nous sommes à la fin. Il n'y a plus rien. Et la même chose qui s'est produite là-bas s'est produite aujourd'hui. La même chose qui a eu lieu en Orient a eu lieu en Occident. Les gens vivent dans le reflet d'une autre lumière qui essayait vraiment de montrer la lumière à venir. Et ils rejettent celle-ci, car ils ont accepté le reflet au lieu de la lumière. Oh, il y eut une grande lumière dans le territoire de Zabulon de Nephtali, pays de la Galilée des Gentils. Souvenez-vous, nous sommes au septième âge de l'Église, et chaque fois ce soleil qui se lève à l'Orient est le même qui brille à l'Occident. Et ainsi, ce fut le même esprit tout au long des âges, comme c'est le même soleil aujourd'hui. Seulement, c'est comme le mûrissement au travers des saisons. Le soleil qui brille maintenant sera le même soleil qui fera mûrir le grain cet automne, voyez-vous? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce soleil plus ce qu'il sera. Et aujourd'hui, ce dernier âge est ce qu'ils étaient plus ceci. Et cependant, ils veulent vivre en arrière comme une plante qui se rabougrit. Ils descendent dans un vieux sous-sol dénominationnel de credo et baissent leur store en disant « Je refuse simplement de voir cela. C'est complètement absurde. » Alors que la Bible même qu'ils affirment croire est identifiée par le même Saint-Esprit qui apporte la lumière dans les derniers jours. Avez-vous remarqué et observé très attentivement comment il l'a exprimé dans Malachie? La foi des pères à leurs enfants et la foi des enfants à leurs pères. Vous voyez, ce que le même esprit a ramené là-bas, il le ramène ici à nouveau. La même chose se répète, voyez-vous, avec une parfaite symétrie. Pourquoi l'Est et l'Ouest se sont rencontrés? C'est juste sous nos yeux, et cependant ils ne la voient pas. Pourquoi? Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, laissez-les tranquilles, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, ils tomberont tous dans la même fosse. La lumière des autres âges a seulement reflété cette lumière, vous voyez? Le soleil d'aujourd'hui est seulement le reflet du soleil qui brillera en juillet, ou en août, si Dieu, pour la moisson. Et le soleil de Luther, de Martin Luther, de Wesley, de Sankey, de Finney, de Knox, de Calvin, de Moody, de tous les autres, ces grands hommes du passé qui eurent ces lumières, de John Smith de l'Église baptiste, d'Alexandre Campbell de l'Église campbelliste, ou des soi-disant disciples de Christ, de l'Église chrétienne, et tous les autres noms qu'ils ont, tous ces hommes, dans les âges passés, reflétaient seulement ce qui serait ici à la fin. Et puis, que firent les enfants immédiatement après leur fondateur? Ils ne sont pas restés sur la tige. Ils s'en détachèrent pour former cette petite balle. Et en faisant cela, vous vous éloignez de la vraie source de vie, et vous n'avez pas la vie. Jésus a une grande table où les saints de Dieu se nourrissent de la nourriture terre d'aujourd'hui, grâce à l'évangile lumière qui confirme qu'il est ici aujourd'hui. Les saints mangent le pain. Pensez seulement, ne replantez pas la vieille balle d'hier, voyez-vous, elle est pourrie, elle ne veut pas rester avec cela. Non, monsieur, cela ne servira à rien. Cela ne poussera pas, cela est sans vie, la parole est la vie, c'est juste. La balle se détache, la vieille petite arête tombe, et ainsi de suite, elle s'organise et meurt. Elle refuse de continuer avec la vie, mais la lumière confirme la vie. Oh là là, oui monsieur, hier, oh là là, combien nous devrions voir cela. Les choses pourries d'hier, ne les mangez pas aujourd'hui, voyez-vous, elles renferment des vers. Vous savez, ces petits Wiggletails, comme je les appelle, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose au sujet des germes de vie, mais je sais que nous avions l'habitude de les appeler Wiggletails. Cela se jette dans tout ce qui commence à pourrir, voyez-vous? Alors je n'en veux pas. Si cela vous satisfait, allez-y. Enfin, mais pas moi. Mais souvenez-vous, vous dites, alors pourquoi était-ce bon hier? Si vous saviez seulement que la petite balle qui recouvrait le blé au commencement, si celle-ci reste sur le grain, elle le fait avancer. Ce qui était hier est la même chose qui fait fleurir le blé. Mais si cela se sépare du grain et ne se développe pas, alors cela se détache et meurt, voyez-vous? Tandis que si cela passe par le processus vivificateur, cela disparaîtra, se mélangera simplement en quelque chose d'autre et amènera le grain. S'il n'en est pas ainsi, alors d'où vient celui-ci? Amen. Comprenez-vous? C'est comme la reine d'Angleterre qui, une fois, alla dans une grande compagnie de papier. Elle dit qu'elle désirait visiter les ateliers. Ainsi, ils les lui firent visiter. C'était il y a bien des années avant qu'ils le fassent en pâte et ainsi de suite. Ils faisaient du papier avec cela. Ainsi, au bout de quelque temps, elle entra dans une pièce où il n'y avait rien d'autre qu'un vieux tas de chiffons sales. Elle dit, « D'où vient ceci? Qu'est-ce que c'est? » Oh, elle dit, le président de l'usine lui dit, c'est avec ces chiffons sales que nous faisons le papier. Elle dit, avec ces chiffons sales? Oui. Eh bien, elle avait de la peine à le croire. Ainsi, après qu'elle fut partie, l'homme prit le même tas de chiffons sales et le fit passer par un certain processus et en tira du papier pur et propre. Vous savez, cela était passé par un processus et était devenu réel. Et il y dessina le profil de la reine et lui envoya cela, reproduisant sa propre image sur ce qu'elle avait appelé chiffon sale. Maintenant, c'est ce qui en est. Les choses mortes d'hier, le message de Luther, le message de Wesley, le message de Pentecôte, Si cela peut seulement passer au travers du processus de l'Esprit de Dieu et de la parole confirmée, cela produira l'image de Jésus-Christ, le roi. Amen. Mais si vous les laissez là, ce sont des chiffons sales, voyez-vous. Ce doit être moulé à quelque chose d'autre. Luther doit être moulé dans Wesley, et Wesley doit être moulé dans la Pentecôte, et la Pentecôte doit être moulée dans Christ. Cela passe par un processus. De même, l'Évangile est passé par un processus se transformant. L'âge de Luther est le processus de la justification, nous croyons cela. L'âge de Wesley, celui de la sanctification, nous le croyons. L'âge pentecôtiste, celui de la restauration des dons du Saint-Esprit, nous croyons cela, certainement. Mais moulez tout cela ensemble, qu'obtiendrez-vous? Jésus. C'est juste. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous obtenez Jésus. Lorsqu'un homme fabrique une cloche dans une fonderie, il doit lui donner un certain timbre. Lorsqu'il prépare son moule et qu'il coule son fer, il met tant d'airain, tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi? Il sait exactement quelle quantité mettre pour lui donner le timbre correct. Et c'est ce que Jésus a fait avec son épouse. Il devait y mettre tant de Luther, tant de méthodistes, tant de presbytériens, tant de pentecôtes. Mais qu'en obtient-il finalement? Sa propre image. Pourquoi cela? C'est comme le message de la pyramide, voyez-vous? Cela s'amoncelle jusqu'à ce que cela s'amenuise pour la pierre fêtière. Le ministère de Jésus-Christ sur terre doit être le même ministère qu'il avait, sinon il ne peut venir. C'est comme la tête pour les pieds. La tête, les pieds ne sont pas la tête, mais la tête dirige les pieds. Elle leur dit où aller. Comprenez-vous cela? Magnifique! C'est la lumière de l'heure. Wesley était une grande lumière, comme Jésus l'a dit de Jean-Baptiste. Il était une grande lumière pour son heure, assurément. Oui, monsieur, les chiffons sales d'hier, si vous les laissez ainsi, cela doit. Ils deviendront de plus en plus sales. Ils ont eu leur raison d'être comme tissu. Mais maintenant, c'est devenu du papier. La justification a servi en son temps dans la justification sous Luther, puis cela a dû devenir la sanctification au travers de Wesley. Et la sanctification a servi en son temps jusqu'à ce que cela devienne le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a servi en son temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit se confond dans l'Église ou l'Église en Christ, ce qui fait Jésus-Christ reflété sur la terre. Ce qu'il promit ici dans la Bible. Il se peut que vous ne le croyez pas. Je ne peux pas vous le faire croire. Je suis seulement responsable de la parole, voyez-vous? C'est juste. Ainsi, le voyez-vous? Voyez-vous cela? Si oui, ce sera comme l'homme qui une fois est allé au pays de Galles au temps du réveil de Welch. Un groupe d'hommes partirent des États-Unis. Ainsi, ils allèrent là-bas et dirent qu'ils désiraient savoir dans quel bâtiment avait lieu ce réveil de Welch. Beaucoup d'entre vous se souviennent du réveil de Welch. Il y eut un grand réveil parmi les gens de Welch, au pays de Galles. Ainsi, ces hommes, ces grands ministres, etc., partirent des États-Unis, des docteurs en théologie. Ils désiraient se rendre là-bas pour voir quelles grandes choses ils avaient faites, vous savez. Ainsi, ils descendirent la rue et rencontrèrent un petit policier qui se tenait sur le coin faisant tournoyer sa matraque. Vous savez, il sifflait un cantique comme cela. Ils se dirent, « Oh, il siffle un cantique ?» Nous pourrions aller le voir, lui poser une question. Ainsi, ils allèrent le voir et dire, « Monsieur, où a lieu le réveil de Welch ?» Il ôta son chapeau, il dit, « Messieurs, le réveil de Welch a lieu ici, dans mon cœur. » Oh, c'est cela, il était le réveil de Welch. Oh Dieu, si nous pouvons seulement comprendre que nous sommes la réflexion de Jésus-Christ, sa parole rendue manifeste. Vous êtes la réflexion de sa parole, voyez-vous? Où a lieu le réveil de Welch? Dans quel bâtiment? Il répondit, Monsieur, c'est dans le cœur. Il était le réveil de Welch. C'est juste. Et aujourd'hui, l'Église devrait être Jésus-Christ en action sur la terre. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les faites aussi. Voyez-vous, l'Église doit parvenir à cet endroit afin de... Et il a promis qu'elle le ferait. Et elle le fera. Elle doit venir ainsi. Ainsi, voyez-vous, c'est ce qui se produit. Nous devons être ainsi. Il est la lumière. Ainsi, Noé était la lumière de son temps. Il était la lumière. Noé était cette lumière. Il était la lumière qui accomplissait quoi? La parole de Dieu. Je détruirai les hommes sur la terre que j'ai créés. Construis une arche et tous ceux que tu désires faire entrer seront sauvés. Noé s'en alla là-bas et dit, il y a une issue et c'est l'arche. Ils dirent, oh, l'espèce de vieux fanatique, il était la parole rendue manifeste. Noé était la lumière de l'heure. Certainement, dans son temps, dans son âge, il répandit la lumière. Moïse était la lumière de son heure. Dieu avait dit à Abraham, je vous visiterai certainement, je descendrai et je vous ferai sortir par une main puissante, et je montrerai ma puissance en Égypte. Lorsque Moïse rencontra ce buisson ardent là-haut, et découvrit que le Je suis était dans ce buisson, il descendit là-bas, et il fut la lumière. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'il pût prendre de la poussière, souffler dessus et dire qu'il y a des mouches sur la terre. Il avait la parole de Dieu. Qu'arriva-t-il? La poussière s'envola et commença à y avoir des mouches. Alléluia! Pourquoi? Il était une manifestation de la lumière de la parole de Dieu. Je frapperai l'Égypte. C'était un prophète. Ce qu'il disait s'accomplissait. Il était la lumière de ce temps-là. Il était la lumière de Dieu. Il se peut que Pharaon, tous les autres, tous les prêtres obtenaient ce qu'ils désiraient. Mais Moïse était la lumière. Pourquoi? Il démontrait la parole de Dieu manifestée. Dieu avait promis, je les ferai sortir sous une main forte et je me glorifierai. C'est ce qu'il faisait. C'est la raison pour laquelle Moïse prouva qu'il pouvait créer. Non pas parce qu'il le désirait, mais parce que Dieu lui avait dit de « Va vers l'assemblée et dis, demain, le Seigneur Dieu vient de me parler. Remplis ta main de poussière, m'a-t-il dit, et lance-la en l'air comme ceci, et fais paraître cela !» Il n'y en a point, mais il y en aura. Amen. Oh, j'espère que vous ne dormez pas. Oh, quelle manifestation! Il dit, « Je suis envoyé. » Dieu a effectivement dit à nos pères qu'il nous visiterait certainement ici et nous ferait sortir. Je suis venu pour prouver que le temps est proche. Débarrassez-vous de ce que vous avez, partant. Certains dirent, eh bien je crois, Dathan dit, je ne pense pas qu'il y ait lieu de se dépêcher. Nous ne devrions pas nous énerver à propos de ceci. Et il semble que cela ait échoué 4 ou 5 fois. Mais malgré tout, cela a marché. Ils pensaient, ils sortirent en disant, nous allons lapider ce Moïse et l'éloigner de nous. Nous ne le désirons pas dans notre groupe. Moïse alla de l'avant de toute façon, car il était la lumière. Il était la lumière de l'heure. Qu'était-ce? Dieu manifestant sa parole promise au travers de Moïse. Et Moïse était la lumière. Élie était la lumière. Va là-bas et assieds-toi sur cette colline. J'ai commandé au corbeau de te nourrir. Amen. Oui, monsieur, il descendit avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Il ne tombera aucune rosée du ciel sinon à la parole. Qu'était-il? La lumière! Alléluia! Il était la lumière! La lumière! Il était la parole de Dieu rendue manifeste. Les gens pensaient qu'il était fou d'aller s'asseoir là-haut. Il avait des messagers qui le nourrissaient, tandis qu'eux mouraient de faim. Il désirait continuer à vivre de tradition, mais pas Élie. Il vivait directement dans la lumière. Assis là-haut, près du torrent de Kirith, il avait du bon temps. Il recevait ses repas et quelqu'un prenait soin de lui. On pensait qu'il était fou, mais il était la lumière. Ils dirent, qu'est devenu ce vieil exalté, cet exalté que nous avions dans le voisinage? Vous savez quoi? Quelqu'un était à la chasse l'autre jour, et on dit qu'ils l'ont vu là-haut, sur le sommet de la montagne. Je vous parie que le pauvre type était presque desséché à ce moment-là. Oh non! Il était la lumière! Il était la lumière! Il était la lumière de son temps! Lorsque Jean vint sur la terre et qu'il partit dans le désert pour être enseigné de Dieu, non pas par le séminaire, car il devait introduire le Messie. Ainsi, quand il parut, Jésus dit qu'il était une lampe qui brille et qu'il vit. Alléluia! Pourquoi? Il était la parole manifestée. Ésaïe l'a dit, c'est juste, que Dieu enverrait une voix dans le désert qui crierait, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sentier, la voix de celui qui crie dans le désert. Et voici qu'il sortit. Qu'était-il? La voix de celui qui crie dans le désert. Qu'était-il? La manifestation de la parole, la lumière. Le même Dieu qui parla dans la Genèse annonça ceci, et voici qu'apparut la lumière. De même qu'il dit que la lumière du soleil soit, et que le soleil parut, de même il dit qu'il y aurait la voix de celui qui crie dans le désert. Voici qu'il parut. Il était la lumière de l'heure. Il a aussi dit que dans les derniers jours, amen, la lumière de l'heure crierait dans le désert de Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Ne touchez pas ce qui est impur, éloignez-vous de cela, fuyez la colère qui doit venir. Jean dit la même chose. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Il n'avait aucune instruction. Il ne parlait même pas comme un prédicateur. Il parla de serpents, de bâtons, d'arbres, de haches, etc., de choses qui lui étaient familières dans le désert. Il ne fut pas élevé dans ces grands milieux intellectuels comme ceux qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils avaient en ce temps-là. Il sortit avec son propre langage. Il ne s'est pas tenu là en disant « Amen » et en faisant toutes ces jolies courbettes. Venant directement du désert, il était sauvage et rude. Il dit « Ne commencez surtout pas à penser, j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela, que ces terres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Ne pensez pas parce que vous êtes méthodiste, baptiste, presbytérien, que vous avez n'importe quel droit d'agir sur Dieu. Dieu peut prendre les bootleggers ou les prostituer dans la rue et en faire des saints. Quelqu'un entendra cela et le croira. » Il dit aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne croit pas sera coupé et jeté au feu. Ainsi, cela était son message. Il était la lumière du temps. Jésus dit, il était une lampe qui brille et qui luit. Et vous avez désiré y marcher quelque temps. Et que dit Jean, le prophète? Il est au milieu de vous en ce moment même. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Aussitôt qu'il paraîtra, je m'en irai. Oh là là! Car il était la lumière. Il n'y avait pas deux ou trois lumières, ni quatre ou cinq différentes organisations. Il y avait une lumière. Il n'y a ni méthodiste, ni baptiste, ni luthérien, ni presbytérien. Christ est la lumière. Et la lumière est la parole. La parole manifestée est la lumière de l'heure. Que la lumière soit et la lumière fut. Oui, monsieur. Qu'il y a de la lumière et il y a de la lumière. Il a dit qu'il y aurait de la lumière en ce temps-ci et il y a de la lumière. Il vient, je le crois. Regardez les promesses de cet âge. Oh là là, chaque lumière qui ait jamais brillé, nous voyons comment ces âges de l'Église, c'est une chose lamentable de voir le rejet. Apocalypse 3, j'ai ici Apocalypse 3 d'inscrit, et je sais ce à quoi je me référais. Regardez la promesse de cette heure, dans quoi nous vivons, une lumière rejetée. Que firent-ils? Ils la rejetèrent en ce temps-là. Pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Que font-ils aujourd'hui? La même chose. Eh bien, êtes-vous chrétien? Je suis luthérien. Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Cela ne veut absolument rien dire pour Dieu. Vous pourriez aussi bien dire que vous êtes un porc ou peu importe le nom que vous désirez vous donner. Voyez-vous, c'est tout ce que cela signifie. Ce n'est pas pour manquer de respect à votre égard, mais si vous prenez la chose à la base, c'est juste. Je pose la question. Qu'est-ce qu'être chrétien? C'est d'avoir Christ en vous. Si Christ est en vous, alors la parole est en vous. Et si la parole est en vous, comment pouvez-vous vous éloigner de la lumière lorsqu'elle brille? Voyez-vous, c'est la question que je vous pose maintenant. La lumière du soir brille. L'arbre de l'épouse fleurit. Oh, souvenez-vous, ils ont émondé ce vieil arbre. Ce qu'a laissé le Gélec, le Gazam l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gazam, le Hazil l'a dévoré. Ce qu'ont laissé les méthodistes, les baptistes l'ont dévoré. Ce qu'ont laissé les baptistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. Joël dit que cet arbre fut coupé jusqu'au tronc, mais il désirait savoir s'il vivrait encore. Oh oui, il l'a gardé. Il a gardé cet arbre, oui monsieur, car c'était son épouse. Il dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Qu'est-ce à dire? Je vous apporterai cela. Tout ce qu'ont dévoré les luthériens, les wesleyens et tous les autres, je vous le rendrai. Car tout cela est toujours dans la racine de l'arbre. Voyez-vous, ça repose là dans la terre, que tout comme la terre qui descendit, comme je le disais à propos de notre sœur, cela repose là. La trompette de Dieu retentira un jour, et ces luthériens, ces méthodistes, ces baptistes élus qui n'eurent rien à voir avec aucune organisation, Luther n'a jamais organisé quoi que ce soit, Moody non plus, ce fut ce groupe de Ricky qui vint après lui qui forma l'organisation. Ils s'emparèrent de la balle. John Smith n'a jamais rien organisé. Aucun d'entre ceux-là ne s'organisèrent. C'était la lumière de l'heure. Ni Luther, ni Wesley, ni aucun d'entre eux. C'était le groupe suivant qui forma l'organisation. Le Saint-Esprit n'a jamais rien organisé dans la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience et non une dénomination. Il n'a jamais rien organisé. Oh non, mais les hommes qui se prétendaient pentecôtistes l'ont organisé. C'est la balle qui meurt là-bas. Non, au lieu de presser cela sur du papier pour en faire sortir l'image complète de Jésus-Christ, ils se détachèrent. Ainsi, ils n'ont rien à voir là-dedans. Laissez-les faire. Mais nous découvrons par cette lumière, par cet arbre, que Christ est rejeté à nouveau par l'Église. Pourquoi? Pour la même raison qu'au commencement. Parce qu'il vit dans le faux reflet, les faux reflets des lumières d'autres époques. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 le dit. Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui qu'il était alors, car il fait la même chose qu'il fit, la même parole que Christ. Écoutez, je désire m'adresser à vous seul maintenant, et que ceci soit personnel. Je ne sais pas si je devrais arrêter cette bande ou pas. Voyez-vous, je la laisserai simplement continuer. Je désire vous demander quelque chose. Observez ceci. Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez, ces œuvres qu'il fit se manifestèrent ouvertement. Maintenant, écoutez bien. Lorsqu'il se tait là, en Jean 14:12, il dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il a dit cela. « Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. » Maintenant, si nous sommes à la fin de l'âge, quand ces grandes œuvres vont-elles se produire? Voyez-vous? Nous sommes ici. Nous n'avons pas... Écoutez, si le calendrier romain est correct, il nous reste 36 ans. À tous les 2000 ans, le monde arrive à sa fin. À la fin du premier bimillénaire, il fut détruit par l'eau. À la fin du deuxième, Christ est venu. Nous serons bientôt en 1964. Il reste 36 ans. Maintenant, le calendrier de l'astronomie égyptienne dit que nous sommes en arrière de 17 ans. Il est en avance de 17 ans. Il resterait 19 ans. Jésus a dit que l'œuvre serait abrégée à cause des élus, sinon personne ne serait sauvé. Où en sommes-nous? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez le même genre d'œuvres, mais de plus grandes. Maintenant, regardez, écoutez bien. Je prie Dieu d'ouvrir votre cœur et votre entendement afin que vous compreniez sans dire que ceci est exagéré. Remarquez, il a dit un jour, voyons quelques-unes des grandes œuvres qu'il fit. Arrêtons-nous simplement sur quelques-unes d'entre elles. Réfléchissons. Une fois, il dit, « Donnez-leur quelque chose à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons rien. » Il dit, « Qu'avez-vous? Apportez-moi ce que vous avez. » Ils dirent alors, « Nous avons 5 pains d'orge et 2 poissons. » Il dit, « Apportez-les-moi. » Et il prit les 5 pains d'orge qu'il y avait déjà et se mit à distribuer les pains. De ce qui était déjà, il fit du pain et nourrit 5000 personnes. Est-ce vrai? Puis il dit, « Avez-vous du poisson? Passez-moi le poisson. » Au départ, c'était un poisson. Et de ce poisson, il forma un autre poisson et un autre poisson. Et il nourrit 5000 personnes. Est-ce juste? Mais dans les derniers jours, il n'avait rien. Il parla seulement et dit, « Dis que cela soit !» Et ce fut là sans qu'il n'y eût rien d'au préalable. Il ne se servit pas d'un écureuil. Il n'y en avait là aucun. Il dit seulement, « Qu'il y en ait un !» Et il y en eut. Oh, la parole est infaillible, elle doit s'accomplir. Je pourrais vous raconter des choses qui vous secoueraient, voyez-vous. C'est là quand il dit que c'est là. Laissez-le le dire, voyez-vous. Exactement. L'ouest est retourné et a rencontré l'est. Ce fut Moïse qui prit une poignée de sable et dit qu'il y a des mouches et ainsi de suite sur la terre. Mais en ces derniers jours, il ne se sert de rien, voyez-vous. Seulement de la parole. Que cela soit, et la chose est, ce qu'il dit s'accomplit. Je désire témoigner de quelques-unes de ces choses ce soir, voyez-vous, de ce qui s'est produit afin que vous puissiez voir qu'il est toujours Dieu. Ses paroles ne peuvent pas, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Je me suis servi d'un poisson pour créer un poisson, mais vous n'avez même pas besoin d'avoir un poisson. Il est toujours Dieu, il est toujours le même fils de Dieu qui d'un poisson forma un poisson. C'est le même fils de Dieu aujourd'hui. Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes. Cela sera magnifié, vous en ferez de plus grandes que celles-ci, et les gens refusent de voir cela. De plus grandes œuvres. Une fausse lumière. Vous savez, je pensais justement à quelque chose. Je fais souvent mention de l'Angleterre, mais je pensais à une fausse lumière. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, il se commit en Angleterre le plus grand vol qualifié qu'il n'y ait jamais eu. Ce fut commis par... C'était un hold-up de 7 millions de dollars. Je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu de vol comparable à celui-là dans le monde. Tout dernièrement,
un grand hold-up de 7 millions de dollars. Même Scotland Yard ne peut pas s'imaginer. Vous savez comment ils ont réussi à faire cela? Au moyen d'une fausse lumière. Ils ont actionné le feu de signalisation de la voie ferrée, le feu rouge, ce qui les fit s'arrêter lorsqu'ils passèrent par là, et le vol eut lieu juste à l'endroit prévu. Une fausse lumière fut la cause du plus important vol qualifié que les nations aient jamais vu. Cela leur causa le plus grand hold-up, le plus grand vol qualifié. Et le plus grand vol qualifié que l'Église de Dieu ait jamais eu fut causé par une fausse lumière, un reflet dénominationnel. Cela leur a dérobé la puissance du Saint-Esprit. Cela a enlevé à l'Église sa sauvegarde même. Cela leur a dérobé la parole lorsqu'ils ont accepté un credo au lieu de celle-ci. Cela a dérobé. Oh, ils prétendent avoir la parole. La parole se manifeste dans chaque âge. Elle se fait connaître. Ils prétendaient avoir la parole aussi du temps de Jésus. Mais celle-ci dit qu'ils virent une grande lumière et qu'ils la rejetèrent. Ils la virent, mais ils la rejetèrent. Oh, une fausse lumière! Oui, cela coûta à l'Église le plus grand vol qu'elle n'ait jamais eu. Frères, les froids credos dénominationnels ne font jamais mûrir une parole confirmée, un grain. Non, Jésus a dit que la parole de Dieu est une semence qu'un semeur sème, voyez-vous. Les credos froids ne font pas mûrir cette parole. Non, non, les jours de blizzard ne font pas mûrir le blé. Certainement pas. Il faut la chaleur du soleil. Car c'était à la parole parlée de Dieu qu'il revenait de faire une telle chose. Et il faudra la parole parlée de Dieu aujourd'hui pour montrer aux saints de Dieu que ce que Jésus-Christ était hier, il l'est aujourd'hui. Les credos et les dénominations ne le font jamais. Ils sont froids et indifférents, et le grain pourrira là dans la terre. Il ne peut pas sortir avec cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons ce que nous avons, comme notre précieux frère Billy Graham, le grand revivaliste. Je pense que Dieu utilise cet homme. Mais regardez ce qu'il fait. Il va là-bas parmi ses baptistes et ses presbytériens. Que fait-il? Il rassemble des membres d'église. C'est pourquoi les baptistes du Sud se vantent là-bas. C'est parce que leur dénomination a pris plus d'ampleur que n'importe quelle autre dénomination protestante. Les catholiques les ont presque tous ralliés l'année dernière. Avez-vous ça dans les journaux? Certainement. Ne vous en faites pas. Cela va tous les prendre. Car cela rallie les baptistes et tous les autres. Ils sont tous ensemble et ne le savent pas. Le conseil des églises les rassemble tous de toute façon. Les dénominations mettent. Pourquoi voudriez-vous rester de ce côté-ci alors? Aussi longtemps que vous rejetterez ceci, quelle différence cela fait-il? N'employez-vous pas les mêmes étiquettes dénominationnelles comme si vous apparteniez à la même chose? Car l'une est la bête et l'autre la marque. Vous y êtes. Ainsi, cela ne fait aucune différence. C'est là où il s'est retrouvé. Il étend son sceau d'approbation et vous le recevez. Puis elle les conduit tous directement à la Maison Blanche et à Washington D.C. et au Conseil des Églises. Les ministres les ont ramenés tout droit là-dedans et c'est exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Oh là là, je souhaiterais que cette horloge n'avance pas si vite. Maintenant, réfléchissez seulement où nous en sommes. Regardez comme les promesses d'aujourd'hui sont à nouveau rejetées. Ce que les églises, les dénominations ont fait en ces derniers jours. Un reflet, ils vivent dans le faux reflet. C'est la raison pour laquelle cela ne mûrira pas. C'est la raison pour laquelle cette parole, c'est pourquoi vous ne voyez pas de miracle. J'ai eu une entrevue avec un prêtre il n'y a pas longtemps. Il dit, « Monsieur Branham, comment avez-vous baptisé cette jeune fille ?» Il s'agit d'une jeune fille qui quitta cette église, elle rétrograda puis elle épousa un catholique et devint catholique. Il allait l'introduire dans l'église. Je dis, je l'ai baptisé du baptême chrétien. Il dit, l'évêque désire savoir. Je dis, très bien, je vais vous le dire. Il dit, le jurez-vous? Je dis, je ne jure pas du tout. J'ajoutais, si vous ne pouvez pas me croire, eh bien c'est en ordre. Je dis, si je ne jure pas. La Bible dit, ne jurez pas par le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Je dis, vous devez m'en croire. Il dit, eh bien, vous avez dit du baptême chrétien. Que voulez-vous dire par là, par immersion? Je dis, ceci est la seule façon d'effectuer le baptême chrétien. Je dis, je l'ai baptisé dans le fleuve Ohio, je l'ai plongé sous l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et je l'en ai retiré. Je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ car c'est le seul baptême chrétien qui existe. Je dis, oui monsieur, il écrivit cela comme ceci, puis il dit, c'est étrange, vous savez, l'Église catholique baptisait jadis de cette façon-là. Je dis, quand?
La discussion se poursuivit un peu et il dit, « Nous sommes les catholiques du commencement. En connaissant les livres là-dessus et l'histoire, je dis, c'est vrai. Mais je dis, pourquoi ne faites-vous pas cela aujourd'hui ?» Il reprit, « Nous avons le pouvoir de remettre les péchés. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Je dis, « Oui, monsieur, il l'a dit. » Il dit, « Ainsi, cela ne donne-t-il pas à l'Église l'autorité de le faire ?» Car Pierre était la tête de l'Église. Je dis, oui, à condition que l'Église veuille le faire de la façon dont Pierre l'a fait. Je dis, lorsqu'ils lui demandèrent, que devons-nous faire pour être sauvés, il leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Je dis, faites cela, et je serai d'accord avec vous. Oh, dit-il, vous essayez de défendre la Bible. Je dis, c'est la parole. Il dit, Dieu est dans son Église. Je dis, Dieu est dans sa parole. Toute parole d'homme est un mensonge, la sienne est la vérité, voyez-vous? Ainsi, vous ne pouvez pas trouver d'autre moyen que celui-là. Ils s'enfoncent tout droit dans les ténèbres et les protestants tombent là-dedans par milliers. Ils acceptent maintenant leur credo, etc., marchant directement avec eux. Tandis que la parole s'identifie clairement, prouvant la manifestation de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais avec ce reflet de credo, ils s'enfoncent tout droit dans les ténèbres, tout comme ils firent du temps de Noé. De même qu'ils l'ont toujours fait autrefois, ils le font aujourd'hui. Qu'en est-il? Ils rejettent la lumière, car les crédos les ont aveuglés. Oh, dans quelle heure sombre nous vivons! Ils rejettent la vraie lumière éternelle de Christ. Voilà ce qu'il en est. Les dénominations froides ne pourront jamais apporter la vie à la parole de Dieu, car celle-ci apporte la vie. Nous avons plus de soi-disant chrétiens à l'heure actuelle. Regardez, j'ai dit à ce prêtre, je suis d'accord avec vous que l'Église catholique est celle qui existait au commencement, à la Pentecôte, pas celle de Rome qui fut fondée à Nicée. L'Église n'est pas née à Nicée, elle est née à la Pentecôte. Voyez-vous, c'est à Jérusalem que l'Église est née. J'admets que ces gens, tous ces esclaves qui avaient le Saint-Esprit et dont les maîtres virent la puissance qu'ils possédaient, ce qu'ils faisaient, ressuscitant les morts, parlant en langue, chassant des démons, prophétisant, parmi eux, il y avait des prophètes, vêtus de peaux de brebis, se nourrissant d'herbes, de grands hommes. Puis voilà qu'un jour, ils partirent et se rendirent à Nicée, prenant position pour cette parole. Et là, pendant ces fameux 15 jours, ils acceptèrent la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme credo, au lieu de la doctrine biblique du nom de Jésus-Christ. De ce credo sont nées toutes les églises protestantes. Elles sont nées en plein là-dedans. Toutes ces autres choses encore, la fausse conception du Saint-Esprit. Ils prennent la communion, boivent le vin, et cela est la Sainte Eucharistie qui représente le Saint-Esprit. Le prêtre vous donne cela. Or, la Bible ne dit pas, le jour de la Pentecôte étant arrivé, un prêtre aux colères retournées s'avança sur la route disant, « Tirez la langue et prenez la Sainte Eucharistie. » Non, la Bible ne dit pas, « Vous tous, venez donc me donner la main d'association, vous baptistes, méthodistes, je mettrai vos noms, apportez-moi une lettre de référence. » Il dit qu'ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sortirent sur la rue chancelant comme s'ils étaient ivres. Marie et tous les autres étant sous l'impact du Saint-Esprit. En était-il des gens qui se moquaient d'eux et qui disaient qu'ils étaient pleins de vin doux? Ils étaient aveuglés par un credo. Ce prédicateur, haut comme trois pommes, appelé Pierre, se tint là et dit, « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et écoutez mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais laissez-moi vous dire ce que l'Écriture a dit qui arriverait. Ceci est la lumière! Ceci est la parole manifestée! Amen! La même chose se produit aujourd'hui, et ils font ce qu'ils ont fait alors. Ils s'éloignent en hochant la tête. Il a dit, laissez-les, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Oh, il faut la vie éternelle de Christ pour confirmer la parole de vie. Faites chair, oh miséricorde, il faut le Saint-Esprit pour mettre la parole de Dieu en action. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est Marc 16, la dernière commission qu'il donna. Il dit, par tout le monde, l'Évangile n'a pas encore atteint tout le monde, voyez-vous, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira parmi tout le monde et qui sera baptisé sera sauvé.
Celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ils serreront la main du...
Non.
Ils seront devant membres d'église.
Non.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal.
S'ils imposent des mains aux malades, ceux-ci seront guéris.
Oh là là!
Jusqu'à quel point? Jusqu'où aller prêcher la bonne nouvelle?
À toute la création,
par tout le monde, jusqu'à ce qu'ils reviennent.
Voici les miracles qui,
celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Oh, comment avons-nous pu nous éloigner de cela?
Nous sommes plus entourés de ténèbres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois.
Encore quelques versets là-dessus et je terminerai aussi vite que possible.
Nous sommes plus entourés de ténèbres qu'ils ne l'étaient alors.
Je sais que cela fait environ 1 heure et demie que vous me supportez, mais voyez-vous, on continue d'enregistrer dans la pièce.
Voyez-vous,
ils sont plus entourés de ténèbres qu'ils ne l'étaient.
Pourquoi?
Parce que le reflet dans lequel les églises vivent aujourd'hui est tellement séduisant qu'on dirait que c'est la vérité.
Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, les deux esprits seraient si rapprochés l'un de l'autre que cela séduirait même les élus, si c'était possible?
Il a dit qu'un groupe élu sortirait pour former l'Église des derniers jours,
et que ce que les dénominations appellent la vérité serait si près de la chose réelle que cela séduirait les élus, si c'était possible.
Or, vous savez que vous ne pouvez pas séduire un pentecôtiste avec quelques doctrines méthodistes ou baptistes.
Vous n'allez pas lui faire croire cela.
Il sait mieux que cela.
Pas plus que vous n'allez séduire un baptiste avec une doctrine luthérienne, voyez-vous?
Et vous ne pourrez pas séduire non plus celui qui croit le message d'aujourd'hui, qui croit cette parole par une doctrine pentecôtiste telle que Père, Fils et Saint-Esprit, et toutes ces faussetés, ces choses du passé et les credos de cette organisation.
Non, certainement pas.
Vous ne pourrez jamais les séduire, car les élus ne seront pas séduits.
Non.
Qu'est-ce? C'est de la séduction.
Que font ces reflets?
Ils conduisent l'Église vers cet abattoir qu'est le Conseil des Églises.
Ce sera l'abattage final lorsque ce Conseil des Églises et Rome s'uniront.
Lorsqu'ils feront cette image de la bête, ce sera l'abattage final.
Regardez ce que font ces reflets présentement.
C'est le bouc conduisant les gens à l'abattoir.
Le bouc mène toujours les brebis à la boucherie.
Vous avez vu cela à l'abattoir. Le bouc y accourra conduisant les brebis. Et une fois rendu là, il sautera de côté et laissera les brebis continuer et entrer.
Voyez-vous, c'est ce qu'il fait.
C'est ce qu'il fait toujours. Ce furent les boucs qui menèrent Jésus, l'agneau, à l'abattoir.
Les boucs romains, c'est juste.
Aujourd'hui, ce sont les boucs dénominationnels qui mènent les brebis innocentes à l'abattoir.
Ils inscrivent leur nom dans ces livres-là et ils sont perdus.
C'est la marque de la bête.
C'est au nom du Seigneur que je parle.
Il y a un bon moment que je le retenais.
Cela est vrai.
Cela est exact.
Qu'est-ce que la bête?
Qu'est-ce que la bête? C'est la hiérarchie de Rome, la première organisation.
Qu'est-ce que la marque de la bête?
Exactement la même chose que c'était.
L'abattoir.
Mais malgré les ténèbres actuelles, nous avons cependant vu resplendir la lumière de Dieu.
Combien nous en sommes reconnaissants.
Écoutez, nous avons vu la lumière, sa parole qu'il avait promise pour aujourd'hui.
Elle a été prouvée et confirmée comme étant la vérité.
C'est la lumière de l'heure.
Oh là là, il n'y a rien d'illusoire à ce sujet.
Il n'y a pas longtemps, un ministre racontait qu'il se trouvait en Floride.
Il avait une Chevrolet, je pense, et le moteur de celle-ci s'était arrêté.
Il alla au garage. Le petit mécanicien l'examina dans tous les sens, mais il n'arrivait pas à la réparer.
Il essaya une chose, puis une autre, mais cela ne fonctionnait pas.
Il installa un accumulateur, des bougies, puis un jeu de vis patiné, mais il n'arrivait toujours pas à la faire fonctionner.
Finalement, un homme bien habillé s'approcha et dit
« Puis-je vous donner un conseil ?»
Le petit mécanicien eut assez de bon sens pour dire
« Oui, monsieur !»
Alors il dit « Prenez ceci, puis ajustez cela.
Ensuite, assemblez de nouveau ces pièces. »
Il prit donc ceci, ajusta cela, et assembla ces pièces, et la voiture démarra.
Puis le petit mécanicien se retourna et dit
« Puis-je savoir qui vous êtes ?»
Eh bien, cet homme était l'ingénieur en chef de la General Motors.
C'était l'inventeur même.
C'est lui qui avait établi le plan de la voiture.
Le plan de la voiture.
Et aujourd'hui, nous parlons de méthodistes, de baptistes, de presbytériens,
alors que le grand mécanicien est ici, l'auteur même de la parole, l'homme qui a créé les cieux et la terre et qui a créé son Église, ne sait-il pas mieux que l'Église méthodiste ou l'Église baptiste ce qu'il faut pour l'enlèvement? Il est l'inventeur, il sait ce qu'il faut, il est somptueusement vêtu de la puissance de sa résurrection. Alléluia! Il marche aujourd'hui au milieu de nous dans la puissance de sa résurrection. Il sait ce dont l'Église a besoin pour être enlevée. Il l'a créé et il en a fait l'assemblage ici dans la Bible. Amen. Laissez passer le courant au travers de celle-ci et observez son fonctionnement. Laissez pénétrer la foi dans sa parole promise pour aujourd'hui et vous verrez comme cela fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il a créé la chose. Il a créé son Église par la parole. C'est de cette façon dont il en fait l'assemblage. Non pas par l'organisation méthodiste ou baptiste ou presbytérienne ou pentecôtiste, mais par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, monsieur, éloignez-vous de ces reflets. Dans ces ténèbres, en ce temps sombre où nous vivons actuellement, il ne me reste plus que 5 minutes. Qui fera sortir la petite épouse des ténèbres? Le grand inventeur le sait. Oh oui! De toute cette confusion de reflets, les méthodistes ont un reflet, les baptistes en ont un autre, et de même que les presbytériens et les pentecôtistes, ils ont tous leurs reflets. Ils s'empressent de mettre leur nom dans ce qui est un reflet. Ils vont ici et là, découvrent quelque chose de ce côté-ci et de ce côté-là. Tout comme je le disais à ce prêtre, si vous êtes l'Église originelle et que vous avez suivi la doctrine que ces hommes ont établie à Nicée, comment se fait-il que vous n'avez pas la puissance qu'ils avaient au commencement? Pourquoi ne faites-vous pas les choses qu'il faisait, dont Jésus a parlé? Il répondit, oh, nous sommes plus nombreux maintenant, et nous vivons à une autre époque. Je dis, mais la parole ne change pas. Il a dit, ces signes accompagneront les croyants de tous les âges. Les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Voilà ce qu'il en est. Il dit, vous parlez de la Bible? En effet, je parle de la parole qui est Christ. C'est juste. Vous y êtes, voyez-vous? Et dans ce reflet, les méthodistes reflètent leur organisation, de même que les baptistes et les presbytériens, chacune de ces organisations devenant sans cesse de plus en plus grande. Mais où se trouve la pauvre petite épouse? Elle est allée quelque temps chez les pentecôtistes unitaires, elle mit son nom dans leur livre, elle se disait, eh bien je vais voir ce qu'ils ont. Voyez-vous, vous allez quelque part et ils vous disent, vous devez appartenir à notre Église, sinon vous n'êtes même pas de l'épouse, vous n'êtes rien. Vous allez chez les assemblées pour voir ce qu'ils ont, c'est le même refrain. Vous allez chez les baptistes pour voir ce qu'ils ont. Que va-t-il arriver à la pauvre petite épouse? Mais elle sortira, ne vous en faites pas, elle sera là. Un homme parlait une fois d'un couple. Il se trouvait au Nouveau-Mexique. J'ai prêché là-bas près de Carlsbad Cavern. Il parlait d'un homme et d'une femme qui se trouvaient dans un ascenseur avec leurs enfants. Ils descendirent tout en bas jusqu'au sous-sol. Quand ils arrivèrent là, on éteignit les lumières. Ce fut l'obscurité totale. Cela m'arriva ici dans ces jardins, une autre fois là-bas dans le Colorado, alors que ma femme qui est là derrière et moi, nous nous trouvions là. Quelqu'un éteignit la lumière, et oh, c'est comme si vous mettiez votre main comme ceci, vous ne pouviez rien voir. Et il y avait une petite fille, et elle se mit à crier. Oh, elle eut une peur bleue tellement qu'il faisait noir. La pauvre petite se cramponnait ici et là et criait de toutes ses forces appelant son papa et sa maman. Elle ne pouvait plus tenir en place tellement il faisait noir. Elle n'avait jamais vu une telle obscurité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est juste, il fait tellement noir que vous ne savez pas où aller. Vous allez chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les presbytériens, c'est du pareil au même. Voyez-vous, mangeant cette vieille manne pourrie et pleine de vers. La même chose. Quelques credos comme « Venez vous joindre à ceci, venez vous joindre à cela », des vieux credos, et ainsi de suite. Vous ne voyez pas Christ là-dedans, mais vous voyez du pharisaïsme, etc. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens remarquables dans ces dénominations. Je parle du système, non pas des gens qui sont là-dedans. Mais vous voyez, c'est ce dont ils se nourrissent. Parlez-leur à ce sujet, dites-leur qu'il y a de la nourriture fraîche. Et cette fillette qui se trouvait là criait de toutes ses forces. Elle allait avoir une crise de nerfs, tout comme la petite épouse aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Son petit frère s'écria, « N'aie pas peur, petite sœur !» car il se tenait tout près de l'opérateur. Il dit, « Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. N'aie pas peur, petite sœur, car il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. Il peut faire vivre cette parole. Nous ne savons pas comment et quand il viendra. Je n'en sais rien du tout, mais il est ici. » Il peut allumer les lumières. Comment allons-nous nous en sortir? Je ne sais pas. Mais il est ici. Il est celui qui peut allumer les lumières. Oui, monsieur, il est celui-là. Il est la lumière. Il se révèle simplement. C'est ainsi qu'il allume la lumière. C'est parfaitement juste. Christ n'a qu'à projeter ses lumières et les ténèbres se dispersent. Il sépare, il retire sa petite épouse. Je choisirai un peuple du milieu des nations qui portera mon nom. Quel est son nom? Très bien. Ce n'est pas méthodiste, ni baptiste, ni présbytérien, ni luthérien. Jésus-Christ, c'est juste. Il est la lumière, la vérité, la lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Lorsqu'il entre, il disperse les ténèbres, car il est la parole. La parole est la lumière. C'est juste, car il a parlé et a dit que la lumière soit. Ce fut la parole qui devint lumière. Chaque fois qu'il parle celle-ci, c'est la lumière de l'âge. Or, il est ici, non pas dans un reflet. Les gens vivent dans un reflet. Mais lui est la parole confirmée. Il est effectivement la lumière dans un temps de ténèbres. Oui, monsieur. Tous ces faux reflets et ces choses disparaîtront. Oui, monsieur. Il est ici. N'ayez pas peur. Allumez les lumières. Sa parole promise vit. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Alors cela est la parole. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Le Père qui l'avait envoyé vint en lui. Le Jésus qui vous envoie vient en vous. Et les œuvres qu'il fit à ce moment-là, il les fait de nouveau. Pourquoi? Parce que la parole est faite chair et se manifeste dans la chair humaine comme lumière du jour. Nous y sommes. C'est ça. Cela montre le chemin de la vie, le chemin de la vie dans la lumière. Les hommes sages, qui ne sont pas aveuglés par les credos et les dénominations, marcheront dans cette lumière. Oh là là! Il y a un homme ici qui peut très bien allumer les lumières. De quelle façon le fait-il? En confirmant sa parole pour aujourd'hui. Jésus, le Fils de Dieu, qui a promis la parole pour ce temps-ci, est ici même, parmi nous. Ne vous effrayez pas, ne prêtez pas attention à ce qu'ils font, car si vous le faites, vous marcherez dans les ténèbres. Soyez prudents. Daniel a dit que ceux qui auraient été intelligents ces derniers jours accompliraient des exploits pour leur Dieu. Voyez-vous, qu'ils marcheraient dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Ne vous inquiétez pas, il peut faire noir, il semble qu'ils nous forceront tous. Ils proclament que toutes ces églises et ces petits groupes doivent maintenant entrer. Vous devez entrer ou ils fermeront vos portes. Ils le feront. Je désire enfoncer cela profondément ce soir lorsque j'en arriverai là. Nous devrons fermer. Vous devrez être l'un d'entre eux. Vous devrez être là-dedans, sinon vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. C'est juste. Vous n'oserez pas prier pour les malades. Si l'on vous surprend à prier pour quelques malades ou à traiter de choses spirituelles avec quelqu'un, selon la loi fédérale, vous serez passible d'exécution. C'est parfaitement juste. Vous savez cela. C'est juste. C'est dans leurs journaux. Oui, monsieur. Ainsi, vous ne pourrez pas le faire. Vous devrez appartenir au culte établi. Frères, laissez-moi vous dire une chose. Vous feriez mieux de recevoir Christ maintenant dans votre cœur, car viendra un temps où vous en aurez réellement besoin et vous ne pourrez plus. Souvenez-vous, lorsque cette marque sera apposée, elle le sera pour tout de bon. Ainsi, ne faites pas cela. Ne croyez surtout pas ce mensonge. Entrez dès maintenant en Christ, la parole. Oui, monsieur, il confirme la parole et montre qu'elle est la lumière de l'heure. C'est ainsi que nous savons qu'il est la lumière, car cette lumière se manifeste dans la chair. Comment le savons-nous? Il était la parole de Dieu faite chair. Voyez-vous, la parole de Dieu se révélait, se confirmait elle-même. Lorsque le Messie viendra, que fera-t-il? La femme au puits dit, « Lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. Tu dois être le prophète qui est la parole pour nous prédire ces choses. » Il dit, « Je le suis. » Voyez-vous, cela suffit. La lumière éclaira la parole promise. Il y eut de la lumière. Elle entra tout de suite dans la ville et dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie lui-même? » C'était cela, voyez-vous. Peu importe ce que dirent les autres, elle sut que c'était le Messie. Souvenez-vous, dans chaque âge, en un temps d'obscurité, Dieu s'est toujours servi de sa parole pour séparer la lumière des ténèbres. Il le fit du temps de Luther lorsque l'Église catholique régnait partout. Il envoya Luther comme une lumière qu'il vit. Et Luther sépara la vérité des ténèbres. Et lorsque les luthériens furent dans la confusion, il suscita un John Wesley. Et celui-ci sépara la lumière des ténèbres.
Puis du temps de la Pentecôte, lorsque les Wesleyens et les Méthodistes furent tout embrouillés, de même que les Baptistes et les Presbytériens, il envoya le message de Pentecôte pour séparer la lumière des ténèbres. La Pentecôte s'enfonça tout droit dans les ténèbres, ils s'organisèrent comme les autres et adoptèrent leur credo. Maintenant, l'heure est venue pour cette parole d'être confirmée. Il envoie la lumière, la parole rendue manifeste, comme il le fit au commencement. Il envoie la parole et celle-ci se révèle. Il y a de la lumière et il sépare sans cesse. Il fait la même chose maintenant que la vie éternelle au commencement. Regardez, enfants, je prends 5 minutes de plus, mais laissez-moi vous dire cette chose. Il y a un homme qui est toujours là. Ne soyez pas effrayés. Peu importe ce qu'il dit, il m'est arrivé d'en venir au point où je ne savais plus que faire. Mais il est toujours là. Sa présence ne disparaît jamais. Il est toujours là. Il peut allumer la lumière. Oui, monsieur, il attend simplement pour voir ce que vous allez faire. Il peut appuyer sur le commutateur chaque fois qu'il le désire. Oui, monsieur, il y a un homme ici qui peut allumer les lumières. Et ceux qui sont assis dans les régions de l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. Certains se trouvaient sous l'emprise de cancer, d'autres sous l'emprise de la mort des dénominations, d'autres sous l'emprise de la mort des credos, d'autres sous l'emprise de la mort des traditions, et toutes ces sortes de morts. L'homme qui a allumé les lumières à ce moment-là est le même qui a dit au commencement « que la lumière soit ». Ce même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, il est ici en ce moment même. Ne vous alarmez pas, il peut allumer les lumières. Lorsque viendra la persécution, ne vous effrayez pas. Il y a une lumière qui a dit qu'il enlèverait son peuple. Son épouse ne passera pas par la tribulation. Jamais. Il a dit qu'elle ne le ferait pas. Elle sera enlevée. Comment y arriveront-ils, frère Branham? Il semble faire tellement noir. Peu importe combien il fait noir, si vous ne pouvez pas voir votre maître devant vous, souvenez-vous, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il peut enlever cette église. Vous dites, eh bien, je suis rendu. Eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego se rendirent jusqu'à la fournaise ardente. Mais il y avait un homme qui pouvait rafraîchir l'air. Oui, monsieur, il envoya ce même vent impétueux qu'il fit descendre le jour de la Pentecôte et les dégagea de toute cette chaleur, de ce feu. Il y avait là un homme. Ils l'appelèrent le quatrième homme. Il y en a un ici aujourd'hui. Il n'y a que lui. Alléluia! Il tient l'interrupteur dans sa main. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée. Ne la rejetez pas. Recevez-la au nom du Seigneur, tandis que nous inclinerons nos têtes un instant.
Oui. Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night.
C'est une belle lumière qui vient de l'endroit où les gouttes de rosée de la miséricorde étincellent. Que tout autour de nous, de jour comme de nuit, brille Jésus, la lumière de
Dieu. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of
venez tous, vous saints, proclamez Jésus, la lumière du monde.
Alors les cloches du ciel sonneront.
Jésus, la lumière
du monde. La
parole confirmée, c'est Jésus aujourd'hui, il est la parole. Nous marcherons dans la lumière. C'est une belle lumière qui vient de l'endroit où les gouttes de rosée de la miséricorde étincellent. Que tout autour de nous, de jour comme de nuit, brille Jésus, la lumière du monde. Avec vos têtes inclinées, je me demande combien désirerait marcher dans cette lumière sous la conduite du Saint-Esprit. Dans la parole confirmée d'aujourd'hui, voyez-vous, la parole que Dieu a promise pour aujourd'hui, celle que nous devons, nous voyons être manifestée. N'est-ce pas ce qu'il était au commencement? Il était la parole. Le Fils naquit, il était la parole, il était le Messie, la parole confirmée. Ainsi donc, la parole, Dieu a annoncé la fin dès le commencement. Il y a une parole pour ce temps-ci, et il est ici, confirmant cette parole au milieu de la confusion, des ténèbres et des reflets. Tout cela ressemble à celle-ci, mais ça ne l'est pas. Cela ne prouve pas que ça l'est. Les critiques, Jésus disait, si je chasse les démons par le droit de Dieu, par qui les chassez-vous? Ceux-ci ne les chassaient pas, voyez-vous. Mais si c'est par le droit de Dieu que j'ai chassé aux démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voyez-vous? Oh, réfléchissons à cela, comme nous élevons doucement les mains maintenant. Méditons paisiblement. C'est une belle lumière qui vient de l'endroit où les coutures rivées de la miséricorde de Dieu. Voyez Dieu maintenant, confessez-le, que tout autour de nous, de jour comme de nuit, brille Jésus, la lumière du monde. Tandis qu'il continue de jouer, je désire demander, dans chaque âge, cela se répéta. Du temps de Noé, que firent ceux qui rejetèrent la lumière? Ils entrèrent dans le jugement de Dieu. Qu'arriva-t-il à Pharaon au jour de cette lumière du buisson ardent qui était en Moïse? Il sombra dans la mer de la mort. Qu'arriva-t-il à Dathan qui avait commencé à marcher dans la lumière et qui ensuite la rejeta? Il entra dans la terre qui s'ouvrit pour l'avaler. Qu'arriva-t-il dans chaque âge à ceux qui ne marchèrent pas dans la lumière de leur temps? C'est toujours Jésus. C'était Jésus du temps de ces hommes. C'est Jésus aujourd'hui, car il est la parole, et la parole crée la lumière. C'est la lumière du temps. Pensez à cela bien paisiblement. Demandez-vous sincèrement si vous marchez dans la lumière, tandis que nous fredonnerons ce chant.
Think of it now. Real quietly, while we're with sincerity, ask, are you walking in the light? While we hum it through again.
C'est une belle lumière. Où les gouttes de rosée de la miséricorde étincelle. Que tout autour de nous, de jour comme de nuit, brille Jésus, la lumière du monde. Levons-nous maintenant. Je prie le Père Céleste d'enfoncer profondément ce message dans les cœurs. Pour ceux qui sont ici, et pour ceux qui l'entendront sur bande, que la lumière vienne sur la parole, la semence, et qu'elle amène chaque semence prédestinée qui a été plantée là-bas dans ses reflets et dans ses organisations. Puissent-ils voir comme Nicodème, même s'ils doivent venir de nuit, venez à la lumière, accorde-le, Père. Puissent-ils arriver ce grand dénouement au sujet de cette pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main. Elle anéantira tous ces royaumes des nations, spirituelles et naturelles. Elle remplira toute la terre. Tout sera purifié. Ceux sur qui tombera cette pierre seront écrasés. Ceux qui tomberont dessus auront un fondement solide. Ô Christ, laisse-moi, en tant que ton serviteur, m'éteindre sur cette pierre, la pierre de ta parole. Ô Seigneur Dieu, laisse-moi me tenir comme David et ses guerriers d'autrefois qui prirent position pour celui-ci. Laisse-moi prendre position pour cette parole aujourd'hui. Tandis que je la vois rejetée par les dénominations, elle se trouve ici dans un petit asile quelque part. Ô Dieu, accorde-nous la force et le courage nécessaires et ton Saint-Esprit afin de pouvoir rester debout, car les heures deviennent de plus en plus sombres. Mais rappelle-nous sans cesse que tu es là pour allumer la lumière, à n'importe quel moment que tu le désires. Tu peux allumer la lumière, Père. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Ainsi, Seigneur, fais que nos lumières, qui sont à ton service, brillent tellement aux yeux des gens qu'ils puissent voir la lumière de l'Évangile que nous vivons jour après jour. Ainsi, Seigneur, nous répéterons la vie de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. lui qui était si plein d'humilité et de douceur, et à travers duquel se manifestait directement la parole. Accorde-le, Seigneur, car nous regardons à toi, grand maître, qui tiens l'interrupteur dans ta main. Tu tiens toutes choses dans ta main, et tu soutiens le monde par ta parole. Ô Père, laisse-nous recevoir la parole, s'il te plaît, Seigneur. Que cela soit le témoignage, le désir de tous les cœurs qui sont ici. Et Père, comme nous chantons ces hymnes, alors que David chantait les psaumes, ceux-ci devenaient des prophéties. C'étaient des prophéties, tu les as reconnues. Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs, Seigneur. Comme nous chantons, nous marcherons dans cette lumière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est une belle lumière. C'est la parole. C'est Christ vivant parmi nous. Non pas ce qu'il était, mais ce qu'il est. Nous savons d'ailleurs que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. Nous prions donc, Père, que les gens puissent comprendre et marcher dans cette belle lumière. Nous le demandons au nom de Jésus. Et tandis que nous restons debout un moment, je désire que nous chantions tous. Maintenant ici, il y a des presbytériens, des méthodistes, des catholiques. C'est un auditoire mélangé lorsqu'il s'agit de questions dénominationnelles. Or, souvenez-vous, sachez bien que je ne parle pas contre les gens qui sont dans ces reflets, mais j'ai prouvé par la Bible que ces choses sont des reflets. Sinon, Christ ferait ce qu'il a promis de faire parmi eux, voyez-vous? Mais il refuse cela. Et lorsque vous entrez là, que trouvez-vous? Vous devez vous joindre à l'église, réciter un credo. Et qu'en résulte-t-il? Vous arrivez au bout de la route et vous découvrez que c'était un mirage. Christ est la parole. Il est la lumière. Vivez maintenant, tandis que vous le pouvez. Vous vivez pour quelque chose. Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Pourquoi chacun de vous doit-il travailler? Pour manger. Pourquoi mangez-vous? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Ainsi, pourquoi ne pas vivre pour vivre? Pourquoi ne pas vivre pour vivre? Alors, le seul moyen par lequel vous puissiez vivre, c'est d'accepter la parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, que nous faisons ici-bas à la sueur de notre front, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, la parole de la bouche de Dieu est confirmée ici même, devant nous, par le Saint-Esprit. Vivez-en, s'il vous plaît. Maintenant, tandis que nous rechantons ce chant, restez chacun à votre place. Prenez la main de votre voisin et dites-lui, « Frère, marchons dans cette lumière. » Priez l'un pour l'autre, tandis que vous vous joignez les mains et que nous le chantons ensemble, les yeux fermés, si possible.
Such a beautiful rhyme, it comes with the dewdrops of mercy.
C'est une belle lumière qui vient de l'endroit où les gouttes de rosée de la miséricorde étincellent. Que tout autour de nous, de jour comme de nuit, brille qui? Jésus, la lumière du monde. Maintenant, levons nos mains. Nous marcherons dans la lumière. C'est une belle lumière qui vient de l'endroit où les gouttes de rosée de la miséricorde étincellent. Que tout autour de nous, de jour comme de nuit, brille Jésus, la lumière du monde. Venez tous, vous ces saints, proclamez Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches du ciel
sonneront.
Jésus, la lumière du monde. Chantons la pleine voix maintenant. Avec vos têtes inclinées maintenant, souvenez-vous, lorsqu'Israël était en voyage, il mangeait chaque jour de la nouvelle manne. Il marchait dans la lumière de la colonne de feu. Cette colonne de feu était Jésus-Christ. La Bible le dit. Et aujourd'hui, il est avec nous. Nous avons cela. Nous savons qu'il est avec nous. La même colonne de feu faisant les mêmes choses qu'il fit lorsqu'il était ici sur terre pour accomplir sa parole. Et comme nous quittons ce lieu pour retourner chez nous, gardons ce chant dans nos cœurs tandis que les roues le bourdonnent. Avant de prendre votre dîner, Inclinez votre tête et remerciez Dieu de ce qu'il envoie sur la terre, la lumière qui amène la nourriture pour votre corps. Ensuite, remerciez-le de ce qu'il envoie la lumière spirituelle, sa parole, afin de pouvoir nourrir l'âme, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Continuez à chanter cet hymne pour vous dans votre foyer, dans votre famille, et revenez ici ce soir vers 18h30 pour les cartes de prière et ainsi de suite. Nous vous verrons alors. Jusque-là, inclinons nos têtes. Je vais demander à Frère Neville, le pasteur, de venir jusqu'ici maintenant et de terminer par un mot de prière.